Vous écoutez Tech Café, une émission de Guillaume Vendée. Tech Café est soutenu en financement participatif avec Tipeee et Patreon.
Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Tech Café, c'est votre rendez-vous où on parle de la tech, de ses usages. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2018. Merci beaucoup de nous rejoindre si jamais vous nous écoutez pour la première fois. Vous pouvez aller ajouter le podcast dans votre lecteur de podcast favori. Et puis si jamais vous avez l'habitude d'écouter Tech Café, ben un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison, enfin cette nouvelle année en tout cas 2018. Et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une très bonne année technophile, si tant est qu'on puisse avoir une année technophile. Et puis, je vais aussi me tourner vers toi, Guillaume Poggiaspala, pour te saluer et te souhaiter aussi officiellement une bonne et heureuse année 2018.
Absolument bonne et heureuse année à toi. Et puis, bonne et heureuse année à tous nos auditeurs. Et voilà, on espère le meilleur pour tout le monde cette année, bien sûr. Et pour le podcast, une grande année, certainement. En tout cas, qui commence fort.
On va essayer. En tout cas, ce qui est bien, c'est que l'actu en ce début d'année est très riche. Donc, c'est, effectivement, ça commence très fort. Et puis, on peut peut-être souhaiter des choses sur la tech en 2018. C'est éventuellement d'avoir moins, j'y crois pas trop, mais de problèmes sur le plan de la sécurité, parce que ça va être un gros axe de cet épisode 69 en lien avec ce qui s'est passé là ces derniers jours sur le plan de la sécurité qui touche le cœur des machines. C'est le cas de le dire. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel pour vous dire que Tech Café, c'est un podcast qui est évidemment gratuit, qui est disponible pour tous librement et ça le restera. En revanche, si vous avez l'impression que cette émission vous apporte quelque chose, que ce soit des sourires ou de l'info ou une forme de culture sur la tech, n'hésitez surtout pas à aller envisager la participation financière via des plateformes qui s'appellent Patreon ou Tipeee. Vous êtes plusieurs dizaines à soutenir Tech Café de cette manière-là et c'est très important pour nous qui sommes derrière l'émission. Et je dis nous parce que j'en suis évidemment le premier bénéficiaire. Mais il y a un bénéficiaire maintenant régulier à chacun des épisodes qui reçoit une partie de ce financement, c'est Guillaume Poggiaspala. Donc voilà, à double titre, si vous voulez me soutenir ou soutenir Guillaume dans cette démarche, surtout allez jeter un coup d'œil, tous les liens sont sur techcafé.fr. Je reprends, parce qu'on avait fait une petite architecture de notes, mais tu as su y ajouter ta patte personnelle pour cet épisode 69, qui n'est donc pas un épisode érotique, du tout, hein, c'est pas du tout sexy. Mais c'est quand même très intéressant. Première partie, on va donc parler de cette grande affaire de faille de sécurité et on va rentrer dans le vif du sujet sur des microprocesseurs. Alors on est évidemment habitué à avoir des failles, des corrections sur des systèmes d'exploitation, parfois sur des applications et puis tout ça se corrige assez vite. Mais on va parler dans cette rubrique que tu as intitulée Grand Corps Malade d'une faille qui a été très médiatisée ces derniers jours et pour cause. Au début, c'était présenté comme étant une faille qui touchait les processeurs Intel. Et puis, c'est une faille qui était sous embargo. Donc, en gros, il y a quelques experts de sécurité qui avaient partagé l'info auprès de grands acteurs que sont notamment, évidemment, les fabricants du côté de chez Intel, notamment, mais aussi ceux qui sont derrière les systèmes d'exploitation qui font tourner nos machines et qui exploitent donc indirectement les microprocesseurs, donc notamment Windows, macOS, mais aussi de manière générale tous les OS, parce qu'en fait c'est un petit peu la surprise qui a attrapé tout le monde au moment de la digestion du foie gras, c'est qu'il n'y avait pas une faille, mais deux, et que ces deux failles qui sont quand même en lien de par la méthodologie pour les exploiter, on va rentrer un petit peu dans le détail ensemble en essayant de rester dans quelque chose du compréhensible, ce qui n'est pas toujours facile dans ce domaine-là. Il y a donc au final deux failles qui touchent pas que les processeurs Intel. Le nom des deux failles, c'est Meltdown et Spectre. Alors, les petits logos hein, qu'on voit, qui circulent et qui labellisent les deux failles, c'est d'une part une espèce de cœur, de bouclier qui est entouré de miel et qui coule, qui n'est pas sans évoquer les failles Heartbleed dont on avait déjà parlé. Et puis, il y a Spectre qui est ni plus ni moins qu'une copie mal faite du logo de Snapchat, mais souriant avec une petite baguette magique, c'est un petit fantôme. Là, on est face, je crois peut-être pour la première fois, en tout cas dans cette ampleur, parce que je connais pas l'histoire complète des microprocesseurs, mais dans cette ampleur-là, on est dans la première vraie faille qui touche de manière très conséquente les processeurs, et donc l'ensemble des machines qu'on a entre nos mains, et probablement que la machine que vous avez devant vous est affectée par cette faille. Guillaume, est-ce que tu peux nous déjà corriger les bêtises éventuellement que j'aurais pu donner dans cette intro un peu rapide, et puis surtout nous donner un petit peu de la matière pour comprendre ce que c'est que ces failles et quelles sont les différences entre les deux failles en question.
Oui, alors c'est vrai que là tu as raison, je crois qu'on vit un moment historique en fait, hein, parce que après un bug de l'an 2000 qui a été plutôt décevant, faut le dire quand même.
Il n'était pas à la hauteur.
Il n'était pas à la hauteur des attentes. Là, le bug de 2018, c'est peut-être ce que l'histoire retiendra, tu vois. Parce que c'est une sorte de tournant pour la microélectronique. Alors, c'est vrai que c'est quand même le feuilleton du moment pour tous ceux qui s'intéressent un temps soit peu à la tech, hein. Alors, c'est comme tu l'as dit, ça touche à peu près tous les CPU, et c'est vrai que ça a commencé comme une rumeur selon laquelle Intel était touché par un bug qui permettrait de lire des informations protégées en mémoire, tu vois. Alors, c'était un bug sévère déjà, et il a commencé à y avoir du bruit, parce que pour corriger ce bug, il aurait fallu modifier les OS en profondeur, et ça aurait impacté durement les performances. D'ailleurs, c'est un problème déjà sérieux, hein, puisque Brian Kranick, le CEO d'Intel, tu l'avais noté, a vendu pour des millions de dollars de ses propres parts Intel, dès qu'il l'a appris.
Fais un petit clin d'œil pour dire que Pierre-Olivier Dibman, dans son streetcast le Blablapod, a justement parlé évidemment de cette faille, mais il a aussi parlé principalement de cet aspect-là. Ça ressemble quand même vaguement à des lits d'initiés, comme ça, vu de l'extérieur, à bout de nez, hein, cette histoire.
Écoute, ce cher monsieur a vendu 39 millions de dollars de parts, c'est-à-dire autant qu'il a pu sans se mettre hors la loi, tu vois. Donc c'est bravo Brian, quoi. Ça confirme, si c'est encore nécessaire, que c'est probablement le pire CEO qu'Intel ait jamais eu. Parce que bon, ça date du printemps dernier. Au printemps dernier, il y a des équipes de chercheurs en sécurité qui ont informé Intel des failles concernant leurs puces, non seulement leurs puces, mais aussi d'autres. Parce qu'il faut bien préciser que c'est pas une faille c'est pas une seule faille en fait qui a été découverte. C'est toute une nouvelle tribu de failles, toute une nouvelle famille. Et elle touche non seulement les puces Intel, qui sont un peu injustement pointées du doigt, moi je trouve, mais à peu près tous les CPU depuis une bonne décennie. Alors évidemment, ça n'empêche pas qu'Intel se prend déjà 3 class actions dans la tronche, aux États-Unis. Alors, il faut dire quand même qu'ils sont au courant depuis juin, et malgré ça, tous les CPU livrés depuis sont aussi vulnérables que tous ceux qu'ils ont précédés depuis 10 ans. Hein, tu vois, il n'y a aucune différence. Forcément, ça donne pas une très bonne image. Linus Torvald était plutôt vénère. On sait que c'est un sanguin, le père Linus, hein. Mais là, c'est vrai que la communication d'Intel, c'est un petit chef-d'œuvre de langue de bois, puisque selon eux, tout fonctionne comme prévu. Alors, s'il dit ça...
On peut tout à fait les croire.
N'est-ce pas? Bon, alors, effectivement, il s'agit d'une attaque d'un genre nouveau qui abuse le fonctionnement intime des puces, qui peut être utilisée pour extraire des informations auxquelles tu ne devrais pas avoir accès. En particulier, un programme lambda peut lire la mémoire d'autres programmes, ou même du noyau du système d'exploitation, lequel peut évidemment contenir des informations super sensibles, tu vois, les mots de passe ou bien d'autres en fait. Hein. Alors, il est même possible, avec des failles de la variante Spectre, de toucher d'une machine virtuelle, tu peux traverser la machine virtuelle, traverser l'hyperviseur pour aller sur la machine hôte. Alors ça, c'est extrêmement...
Peut-être rappeler effectivement... Ce qu'on peut peut-être rappeler, justement, c'est que dans le cas d'une machine virtuelle, et puis pareil, tu me corrigeras si je dis bêtises, mais moi, ça me semblait toujours être le truc hyper sécurisant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées une machine virtuelle, tu crées une machine qui est émulée, et donc qu'a priori, on ne peut pas, à partir de la machine émulée, remonter jusqu'à la machine principale pour aller, je sais pas, l'exploiter, ou retrouver des traces, etc.
Donc, mais c'est tout l'enjeu, bien sûr, tu as complètement raison.
Et justement, là, c'est complètement plus vrai du tout, quoi.
Et c'est du jamais vu, parce qu'effectivement, un hyperviseur, ça étanchéifie complètement les machines virtuelles entre elles, et heureusement, parce que imaginez, vous vous loguez sur une instance Amazon dans le cloud, ou vous loguez même sur n'importe quelle machine dans le cloud, si vous êtes capable de sortir de la virtualisation, de sortir de votre machine virtuelle, ça veut dire que vous pouvez aller espionner les autres, ceux qui partagent le même serveur.
Tu vas sur ton site perso et tu te retrouves sur les machines de Jackie et Michel, quoi.
Eh bien, potentiellement, t'imagines, c'est un énorme intérêt, évidemment. Donc, forcément, et bien, pourtant, il y a des mécanismes de protection contre les ce genre d'indiscrétion, évidemment. Hein. L'OS établit des barrières étanches entre les programmes, et les CPU eux-mêmes prennent en compte divers niveaux de privilèges. Un programme standard, il doit rester à sa place, sinon il se fait sortir. S'il tente d'exécuter une instruction à laquelle il n'est pas autorisé, enfin, si un programme tente d'exécuter une instruction non autorisée, ou de lire une case mémoire qui est hors de sa juridiction, il se fait kicker, normalement. Alors, pour comprendre comment c'est quand même possible de le faire, et pour comment on peut faire sauter toutes ces restrictions, ben, il va falloir regarder plus précisément comment fonctionnent nos pupus, et il va falloir dévoiler leur intimité. Ça tombe bien, c'est le podcast 69.
Tout est bien calculé. Alors, effectivement, moi, de ce que j'en ai compris, en fait, j'aime bien toujours rappeler ce que j'en ai compris en intro, parce que j'ai l'impression que ça sert de base à peut-être à ceux qui, comme moi, n'ont pas forcément l'expertise du fond du fonctionnement des puces. Et puis, ça te permet après de rebondir en corrigeant ou en trouvant peut-être des manières un peu plus explicites.
On va tout expliquer en utilisant une équipe de castors.
Alors, super, j'ai hâte de voir ton équipe de castors. Moi, ce que j'avais compris du problème, en gros, c'est que ça exploitait une mécanique dont tu avais déjà parlé, hein, qui est de dire que les microprocesseurs ont tendance à se dire, on fait des calculs à l'avance, au cas où ce seraient les bons, et puis, si c'est les bons, tant mieux. Si c'est pas les bons, tant pis, on en refait d'autres, mais au moins ça nous fait gagner du temps. Et est-ce qu'il n'y a pas cette mécanique, d'ailleurs que je décris peut-être très très mal, hein, mais qui est exploitée dans ces failles?
Si, tout à fait. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses en fait. Donc on va être obligé aussi de développer un petit peu le système de cache et tout ça. Et donc effectivement, un CPU moderne, on dit c'est un CPU, mais en fait donc il y a une multitude de petites unités, et c'est un peu comme une équipe. Alors on va dire que c'est une équipe de castors hyperactifs.
Pourquoi des castors?
Eh ben, parce que plaisir. Les castors, c'est affairé, et puis j'aime bien les castors, c'est plutôt mignon. Voilà. Je trouve qu'ils sont sous-estimés. Bon. Surtout en technologie. Et pourtant, ils font des super barrages et tout. Enfin, moi, j'aime bien les castors. Vive les castors. Bref. Alors les castors, si tu veux, on a une équipe de castors. Le CPU, c'est une équipe de castors. Alors, il y a ceux qui travaillent à fond sur leurs noisettes dans leur coin. Puis après, il y a aussi ceux qui s'occupent des transferts de noisettes de la réserve à l'atelier, ceux qui s'occupent de calibrer les noisettes selon leur taille, ceux qui récupèrent les noisettes décortiquées et les renvoient dans la réserve, etc. D'accord.
Mais c'est des écureuils ou des castors?
Ah, bah je sais. Bah alors quoi, ça peut pas manger des noisettes des castors?
Ok, ça marche, je garde.
Bon, le premier truc à savoir, en fait, c'est que la grosse réserve de noisettes, c'est une sorte de champ de noisettes, elle est vachement loin de l'atelier du castor hyperactif qui fait le décortiquage, qui s'occupe de travailler sur les noisettes. On va l'appeler Tom, hein, le castor hyperactif qui travaille sur les noisettes. Donc, disons qu'elle est dans un champ et qu'elle est de l'autre côté du pâté de maison. Du coup, bah, c'est assez utile d'avoir des réserves de noisettes intermédiaires. Donc, par exemple, il peut y avoir un tas de noisettes dans la pièce d'à côté. Il est petit. Et puis, il y aura un tas beaucoup plus gros dans la remise. Et puis, il y aura un tas, la maison qui est à le champ. T'as la maison de castor avec la remise avec un autre tas, et puis un tas plus petit, mais plus proche de Tom, du castor qui s'occupe de tout. Donc en gros, quand le castor décortiqueur demande une noisette, il y a le castor transporteur, qu'on va l'appeler Jerry, regarde où elle est. Alors si elle est dans la pièce d'à côté, bah, c'est bon, donc il va lui apporter, sinon il va voir dans la remise. Et puis si elle n'y est pas, bah, il demande au castor avec la brouette de ramener un chargement du champ. Alors bien sûr, ils sont pas complètement cons les castors, ils vont pas ramener une seule noisette à chaque fois. Ils vont prendre le plus possible chacun, à chaque voyage. Donc par exemple, le castor à la brouette, il va prendre une brouette de noisettes, il va la ramener. Jerry, lui, il va en prendre une bronze brassée, il va la mettre dans la remise, et puis après, il donne la noisette que Tom demande, tu vois. Donc ça, cette pitoyable métaphore zoologique décrit évidemment le système de cache, bien entendu. Donc Tom, c'est l'unité qui fait le calcul à proprement parler, mais il peut que travailler que ce qu'il a dans ses mains, avec ce qu'il a dans ses mains, tu vois. On appelle ça les registres sur un CPU. Après, les diverses réserves, ce sont les niveaux de cache, puis la mémoire. Le cache L1, il est petit, mais d'accès très rapide. Le cache L2, plus gros, mais il est un peu plus loin. Et enfin, le champ immense, qui est très loin, mais dont l'accès demande beaucoup de temps, et ça, c'est la mémoire centrale. Alors, ce brave Tom, il travaille vite. Il est complètement hyperactif, il est sans doute un brin cocaïnomane, d'ailleurs. Il peut pas s'arrêter de faire des trucs. Il va très vite à chaque fois. Tu vois, il peut absolument faire des trucs tout le temps.
Surtout quand il s'agit de noisettes.
Tout le temps, exactement. Donc quand il demande une noisette, eh ben ça peut prendre du temps, parce que c'est pas trop où aller. Bon. Du coup, Tom, il va pas se tourner les pouces. C'est plus fort que lui. Il faut qu'il mette à profit ce laps de temps. Du coup, il va continuer à travailler quand même, quitte à faire des trucs pour rien de temps en temps. On va prendre l'exemple d'une boucle. Quand Tom a fait le travail qu'il y a dans la boucle, en théorie, il devra attendre de savoir si la boucle est finie ou pas. Mais ça peut prendre du temps à savoir, parce que ça peut dépendre d'une noisette qu'il y a dans la remise, ou même qu'il y a dans le champ. Alors en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de travailler comme si la boucle n'était pas finie, et puis il verra plus tard. Finalement, à un moment donné, Jerry, il arrive pépère, et il lui dit si la boucle est terminée ou pas. Mais là, il y a deux solutions. Soit Tom a eu raison, et donc il a pas perdu temps, le programme va se terminer plus vite, bravo Tom. Soit il a eu tort, et bon, bah, il fout à la poubelle tout son travail, il recommence. Mais ça ne le gêne pas vraiment, Tom, parce que au moins, il ne s'est pas tourné les pouces, et ça, Tom, il supporte pas de se tourner les pouces. C'est normal. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exécution spéculative. Afin de maintenir la puce occupée, elle fait des suppositions, et parfois elle travaille pour rien, mais c'est pas bien grave, parce que l'impact négatif d'une mauvaise prédiction, c'est en général largement contrebalancé par le fait que le plus souvent, elle devine juste, et donc gagne du temps. Alors, l'exécution spéculative, ça peut se faire dans plein de contextes différents. Et c'est précisément ce mécanisme, en fait, qui permet les failles de sécurité catastrophiques que sont... alors, en fait, il y en a trois, hein, qui sont regroupées sous les termes meltdown et spectre. Et oui, il y a trois pour deux noms. Désolé, me demandez pas. Me demandez pas pourquoi. Donc, par exemple, le programme peut demander à Tom d'aller mettre ailleurs une noisette à un endroit non autorisé du champ. Bon. Pour accéder au champ, c'est une galère, toujours. Alors, dès qu'il peut, Tom balance spéculativement la noisette à Jerry, qui la met dans la remise, et il continue à s'occuper furieusement à autre chose. De toute façon, autorisé ou pas, c'est pas son problème. C'est parce que c'est le problème de l'inspecteur Castor. L'inspecteur Castor, il fait sa tournée régulièrement, et il vérifie qu'aucune noisette se balade là où elle devrait pas. Okay. L'inspecteur Castor, c'est un grand professionnel. Il voit immédiatement si une noisette a rien à foutre là. Et si c'est le cas, il lance l'alerte, il annule le travail de Tom. Et cette noisette n'arrivera jamais dans le champ, et l'intégrité du système est maintenue. Sauf que bon, la noisette en question, elle peut quand même rester dans la remise. Mais ça devrait pas être un problème, puisqu'en fait, la remise est un espace privé, de Tom. Le programmeur n'y a pas accès.
N'importe qui rentre pas dans la remise, quoi.
En fait, personne ne rentre dans la remise. Seul Tom rentre dans la remise. En fait, le programmeur n'a accès à la mémoire, mais jamais au cache. Bon, sauf que il y a un détail intéressant, c'est que pour savoir si une valeur en mémoire est en cache ou pas, ben, c'est possible, puisque le temps pour y accéder est pas du tout le même. Dans un cas, c'est beaucoup plus rapide que dans l'autre. Alors, si on est très très malin, on peut préparer un gros chargement de noisettes dans le champ en faisant en sorte qu'aucune ne soit dans la remise. Ensuite, on demande à Tom de prendre une noisette à un endroit non autorisé et on lui demande de la mettre à un endroit bien précis du champ. Un endroit autorisé, mais un endroit qui va dépendre de ce qui est écrit sur la noisette. Oui, bon, ben je sais, c'est une noisette avec des nombres dessus. Bon, mais c'est pas grave. Bon,
et alors
voilà. Voilà. Donc, et bon, on le connaît, notre Tom. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire spéculativement le boulot et balancer la noisette dans la remise en prévision de son transfert. Probablement, il va le faire en râlant que, décidément, on lui fait faire vraiment des boulots débiles, qu'on le reconnaît pas à sa juste valeur, que Maman Castor avait bien raison, etc., etc. Bon, toujours Tom. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? L'inspecteur Castor, lui, va interdire formellement ce transfert illicite quand il va s'en rendre compte. Seulement, il va laisser la noisette dans la remise. Donc, au final, on a un gros tableau de données en mémoire, et une seule de ces valeurs est en cache. Et c'est facile de déterminer laquelle, on l'a dit. Alors, bien sûr, cette valeur ne contient pas la donnée qu'on avait demandée. Parce que, il faut pas prendre l'inspecteur Castor pour un canard sauvage. Oui, je sais pas trop où je vais, là. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est pas la valeur qui est importante, c'est la position qui va nous le dire. Mm-hmm. Parce qu'on a demandé le transfert à un endroit qui dépendait de la valeur demandée. Cette valeur est interdite et elle ne nous est pas divulguée. Mais comme Tom a fait le travail spéculativement, elle est quand même en cache. Et donc, en faisant des tests de timing, on peut déduire le contenu de n'importe quelle partie de la mémoire, y compris le noyau du système, de manière totalement indirecte. Et c'est ça, meltdown, en fait. Tu peux extraire des valeurs en faisant des tests de timing. Alors, c'est une des variantes des failles de sécurité découvertes. Alors, il y a Google, les chercheurs de Google Zero et de Siberus Technologies et de l'université de Graz qui se sont intéressés là-dessus. Et c'est vrai que meltdown marche particulièrement bien sur les CPU Intel parce que leurs castors sont particulièrement gourmands dans leur gestion des noisettes. Ils en déplacent beaucoup, très à l'avance. Enfin, c'est aussi le cas de d'autres processeurs ARM, par exemple le Cortex A75, qui est aussi dans ce cas-là. Ça va les castors ou...
Oui, je trouve l'image excellente. Il est possible que je sorte cet extrait pour en faire une publication sur YouTube, sur Facebook ou je ne sais quoi, pour vraiment montrer la valeur de vulgarisation que tu peux amener, surtout avec ces castors. Non, pour moi c'est très très clair.
Bon, très bien.
D'ailleurs, juste avant que tu continues, et peut-être que c'était prévu que tu redétailles ce sujet. Moi, je l'avais noté de mon côté, mais tu parlais de Google et de l'autre société dont j'ai mangé le nom là, qui ont en gros Enfin, les cybervirus qui ont, en gros, découvert ou identifié ces failles, ça s'est fait presque en même temps. Est-ce que c'est un hasard complet qu'ils aient découvert ces failles chacun de leur côté, qui sont assez proches l'une de l'autre en même temps, ou est-ce que tout simplement c'est des choses qui ont circulé parce que c'est le genre de choses que dans le milieu de la cyber, de la sécurité, tu gardes pas pour toi et que tôt ou tard tu fais appel à des petits copains qui sont aussi spécialistes en sécurité pour partager le boulot et que du coup, par extension, on trouve des choses proche, tu vois ce que je veux dire?
Oui, bah enfin, je suis pas dans le secret des dieux, mais en fait, l'impression que j'ai, si tu veux, c'est que de manière dans le monde académique ou qui s'intéresse à la cybersécurité, les attaques sur les exécutions spéculatives, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un champ de recherche depuis quelques temps, et que en gros, les gens travaillent dessus, faut avancer le domaine. Et à un moment donné, trouve des trucs. Et effectivement, comme c'est des chercheurs, ils communiquent peut-être entre eux aussi, certainement d'ailleurs même. Et du coup, c'est arrivé à maturation à ce moment-là, j'ai l'impression.
Ok. Du coup, est-ce alors, que tu continues à nous faire vivre nos petits castors?
Oui, bah alors, si tu veux, là, en fait, vous avez compris mes dents, mais en fait, c'est vrai que les autres sont pas vraiment les mêmes, mais finalement, elles sont analogues, parce qu'en fait, c'est juste un exemple d'attaque. Alors, il y a trois variantes qui appartiennent à la nouvelle famille, qui ont été implémentées et qui ont été regroupées sous le nom de Spectre et Meltdown. Elles touchent toutes les puces qui font de l'exécution spéculative, en fait, hein, c'est-à-dire à peu près toutes les puces du monde.
Y compris smartphone.
Y compris smartphone, absolument. D'ailleurs, il y a Qualcomm qui a reconnu que certaines de ces puces étaient affectées, ARM qui a reconnu, AMD est affecté par certaines variantes de Spectre, et Meltdown touche particulièrement donc les puces Intel. Alors, en ce qui concerne Meltdown, d'ailleurs, comment se protéger de ce genre de merdier? Déjà, le système d'exploitation peut se protéger de ça en se déplaçant hors de portée. D'ordinaire, et parce que c'est quand même plus rapide, le noyau et le processus, donc le programme, partagent la même plage de mémoire virtuelle. Si on isole le noyau dans un autre espace d'adressage, c'est ce qu'on appelle le Kernel Page Table Isolation, le KPTI, c'est devenu très à la mode comme terme ces derniers jours, ben en fait on le protège parce que, en gros, l'attaquant ne sait plus où lire, tout simplement. Le problème, c'est qu'il faut faire à chaque appel système, à chaque fois que le programme a besoin du système d'exploitation, ça peut arriver très souvent, faut faire les traductions, du coup. Et donc, ça prend un certain temps. Donc, dans certains contextes.
Du coup, perd en performance. C'est les fameuses explications qui visaient à dire que pour corriger le problème, on perdrait, alors ça me paraissait très spéculatif et un peu rapide comme évaluation, et surtout une grosse fourchette, entre 5 et 30% des performances d'un processeur.
Oui, c'est normal. À cette implémentation. Oui, en fait, c'est normal. Parce que si tu fais un programme qui fait beaucoup, beaucoup de calculs et qui fait très, très peu appel au système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il fait très peu d'appels système, de tout court, il sera très, très peu impacté. En fait. Par contre, si tu as une base de données qui fait en permanence appel au système d'exploitation pour allouer de la mémoire, lire sur les disques, qui accède à des ressources qui sont gérées par l'OS, là, par contre, le surcoût peut être beaucoup plus important. Et les 30%, c'est plutôt pour ce genre de travail-là, quoi. Alors, il y a des correctifs qui arrivent ou qui sont arrivés, pour Linux, Windows et OS X. Et même, d'ailleurs, pour iOS, je pense, assez, vraiment bientôt, quoi. Alors. Du coup, pour les variantes Spectre, donc que j'ai pas vraiment expliqué, mais c'est on pourra expliquer un petit peu. Mais,
c'est un castor fantôme.
C'est plus compliqué. Non, c'est juste
le mec qui reste figé dans son castor, tu sais.
non, c'est exactement pareil. C'est juste le castor, il fait d'autres choses. Par exemple, il y a des attaques sur les bound checking, sur les accès à des tableaux, mais hors du tableau. Du coup, tu sors du tableau, donc tu vas lire un peu n'importe où. Et c'est un petit peu la même idée. Et puis t'as des choses qui sont plus encore plus fines, qui abusent la prédiction des branchements. Et là, ça revient au castor qui fait sa boucle. Il fait sa boucle, il fait sa boucle, il fait sa boucle. Et même il sait pas si elle est finie ou pas, mais il la continue quand même. Et là, c'est un peu pareil. Il suffit d'abuser Tom pour que il pense que le prochain branchement, en fait, le prochain event, si tu veux, va aller d'un côté ou de l'autre. Parce que le programme a un cours, mais Tom, lui, il imagine un cours. Il imagine un cours qu'il arrange pour qu'il reste occupé. Et en fait, il est possible de préparer un flow d'instructions de manière à ce que Tom pense que le programme va aller d'un côté, alors qu'en fait, il va pas de ce côté-là. Et du coup, tu connais Tom, il le fait quand même. Voilà. Et donc, ça fait des soucis, quoi. Alors, donc du coup, pour Spectre, c'est quand même assez compliqué. Il y a des fixes au niveau des compilateurs. Donc, tu mentionnais Retropline, probablement, de chez Google. Donc, Retropline, c'est un fixe qui est plutôt économe, mais qui demande, par exemple, soit de faire des patchs sur les machines virtuelles, soit de recompiler carrément. C'est-à-dire il y a un patch pour le compilateur, il faut recompiler l'appli pour pouvoir utiliser le système Retropline qui effectivement permet de corriger contre certaines failles Spectre, quoi. Alors, tout le monde ou presque hein, se dit vent debout, les fabricants d'OS ou de logiciels évidemment, Linux, Microsoft, Apple, Google, ils vont tous de leur patch ou de leur mise à jour et ils vont faire leur possible pour limiter les dégâts, quoi. Le truc, c'est que probablement, ça ne suffira pas, parce que je pense que, et c'est pour ça que moi, j'ai mis Meltdown et Spectre ensemble, finalement, parce que, tout simplement, c'est une famille de failles, tu vois. Plus que trois failles, c'est une nouvelle méthode d'abuser les processeurs qui viennent d'être découvertes, et il y a gros à parier que d'autres méthodes verront le jour dans l'avenir, et il faudra donc que les fabricants soient plus vigilants dans l'implémentation même des optimisations des puces. Tous les CPU en circulation en ce moment sont potentiellement des cibles pour ce nouveau type d'attaque. Alors, heureusement, ces attaques sont quand même complexes à mettre en œuvre. Elles nécessitent une grosse préparation, hein. Comme je l'ai dit, il faut préparer un gros champ de noisettes très spécifique avec une noisette que dans le champ et pas dans la remise, tout ça. Donc, et ensuite, pour récupérer les données, il faut aussi faire des tests de timing, ce qui explique qu'en fait, elles sont assez longues à extraire des données. Elles peuvent extraire quelques kilooctets par seconde en général. Donc, c'est pas si simple à mettre en œuvre, heureusement. Mais allez, c'est pour ça, je pense que je l'ai lu quelque part que donc Meltdown, ça c'est une faille qui a été trouvée, je crois, un petit peu avant. Elle s'appelle Meltdown parce qu'elle fait fondre la barrière de protection entre le système et les applications. Et Spectre, elle s'appelle Spectre tout simplement parce que les chercheurs pensent qu'elle viendra nous hanter pendant encore des années.
Ce qui est fort probable. Alors après, c'est intéressant de mettre en perspective la portée de ces failles, et c'est ce que tu décris bien. En gros, toi et moi, demain, il y a peu de raisons que notre quotidien soit complètement affecté d'un coup par ces failles-là, mais ça pose plus des questions d'ordre logique et à grande échelle. Je me posais la question, depuis combien de temps est-ce que les puces ont ce fonctionnement-là de calcul spéculatif? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est assez récent? Est-ce qu'on a une date où les premiers processeurs étaient capables de faire ça?
C'est 95, qui... à peu près.
C'est 95, donc ouais. Est-ce que ça veut dire que cette faille est une grosse négligence avec du recul de la part des fabricants et des concepteurs, ou est-ce que c'est quand même un truc, et c'est un petit peu ce que j'en déduis et ce que j'en comprends, suffisamment tordu et suffisamment difficile à mettre en œuvre pour que ça ait mis beaucoup de temps à arriver? Ça me paraît quand même, malgré tout, alors c'est peut-être lié à la manière que tu as de l'expliquer, qui me paraît du coup hyper hyper compréhensible et accessible, mais ça me paraît quand même un peu évident. Du coup, est-ce que on est en droit de se dire qu'il y a une faute de la part des concepteurs au départ, depuis 95, de laisser des appareils comme ça en circulation et de les commercialiser avec de tels défauts, j'allais dire?
Alors oui, donc effectivement, l'exécution spéculative, ça a une vingtaine d'années, je pense. Les puces qui sont vulnérables à ce genre de trucs, il y en a au moins depuis 10 ans aussi, probablement. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une grosse négligence? Alors bah oui, il y a certainement eu une négligence. Après, bon, le fait, si tu veux, que les gens n'ont pas tout de suite pensé à l'exploiter, et même qu'il a fallu attendre de nombreuses années avant que ça le soit, c'est que c'est quand même pas si évident. Et si tu veux, les fondeurs, ils ont vraiment essayé d'optimiser la vitesse de leur puce, et donc ça veut dire aussi d'éviter tout travail inutile. Et dans leur esprit, et dans le mien aussi jusqu'à ce mois-ci, hein, évidemment, laisser une donnée en cache, quelle qu'elle soit, de toute façon, c'était pas un problème, tout simplement parce que elle n'allait pas être accédée. On ne peut pas y accéder. Matériellement, on ne peut pas, tu vois. Donc, le fait qu'on puisse contourner ça, c'est quand même pas évident. Et bon, c'est facile de jeter la pierre a posteriori, quoi, tu vois. Mais clairement, on peut considérer que c'est une négligence, en tous les cas, que les fabricants ont clairement privilégié la vitesse par rapport à la sécurité. Après, est-ce qu'on peut vraiment leur taper dessus pour ça? Ben, c'était pas évident, quoi. Tu vois, on peut pas vraiment dire que ce soit une négligence grave, enfin, tu vois, énorme. C'est juste que, ben, personne n'y avait pensé jusqu'à présent. Faut quand même bien se rendre compte qu'on est en 2018, quoi.
C'est quand même une faille que je qualifierais. C'est compliqué, hein, parce qu'il y a quand même des échanges de données là-dedans. Donc, mais ça me paraît être une faille très matérielle, très au niveau matériel. J'ai l'impression que c'est une des premières qui a cette portée-là. Et j'ai l'impression aussi que ça peut servir d'expérience, peut-être pour l'industrie de manière générale, en se disant, Et on l'a souvent répété, je dirais, durant ces dernières années, ou au moins moi, mais même année de Tech Café, où on dit que la sécurité, il y a des enjeux maintenant hyper évidents, qu'on peut pas garantir la sécurité totale, mais qu'il faut faire des arbitrages, mais par contre on avait l'impression un petit peu que dans le domaine matériel c'était un peu irréprochable, c'est-à-dire que oui, il pouvait y avoir des failles sur par exemple des routeurs qui proposaient des logins mot de passe par défaut qui étaient admin, des trucs comme ça, mais ça restait très logiciel, très sur les niveaux système d'exploitation. On a parlé récemment de limites au niveau du BIOS, mais j'ai l'impression que c'est la première fois où on se rend compte que l'aspect matériel n'échappe pas à désormais cette règle, qui est de dire qu'on ne peut pas garantir la sécurité totale, qu'il y a toujours un risque et qu'il faut redoubler de vigilance en permanence dans le cadre du développement de ce qu'on fait dans les nouvelles technos, quoi. Ouais. Je crois que c'est une conclusion qu'on peut donner.
Enfin, je tempère en disant que des bugs hardware, il y en a toujours eu. On se souvient du bug du Pentium qui était très célèbre et qui est très loin d'être unique, hein, le bug des divisions.
Ouais, je parlais plus de failles que de bugs, même si la différence est parfois ténue, tu vois.
Mais il y en a eu certainement aussi, c'est-à-dire des checks incorrects. Enfin, non, il y a eu, si tu veux, des bugs, il y en a eu. Après, cette faille-là, elle est vraiment spécifique parce qu'elle est systémique, quelque part. C'est-à-dire que le fait qu'une puce soit à exécution spéculative, t'as une chance sur deux ou sur trois qu'elle soit vulnérable. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie nouveauté parce que, voilà, ça transcende, si tu veux, les marques, les architectures, tout ce que tu veux, quoi. Et ça, par contre, c'est effectivement complètement... complètement inédit, mais comme tu le dis, je pense aussi que ça va pousser justement les fabricants à faire mieux, quoi. Voilà, tout simplement. Et maintenant, ça y est, on a compris que ça c'était exploitable, donc on va faire en sorte de plus que ce ne le soit plus. Voilà, c'est déjà.
Alors justement, ça tombe bien, ça nous fait une transition toute trouvée pour commencer à clore cette grande rubrique. On parle des solutions. Là, tu as évoqué la solution notamment qui a été listée par Google et qu'ils ont réussi à implémenter sur leur serveur sans trop de pertes de performance. Il y a plein de solutions qui sont mises en œuvre au niveau des systèmes d'exploitation. Tu l'as listé tout à l'heure en disant qu'il y allait y avoir des mises à jour. On va les voir arriver de toute façon très très rapidement sur cet aspect-là, qui vont sans doute aider, ou en tout cas ce sur quoi on peut aider, ça va aider. Et puis ce qui était intéressant, c'est que tu as listé quelques pistes de réflexion pour des façons de voir les choses un petit peu différemment. Pour demain, on parle même d'un besoin de puces open source. Je trouve l'idée hyper hyper intéressante. Du coup, ça tombe à point nommé d'aborder ce genre de sujet.
C'est pas complètement nouveau, mais c'est vrai que ça revient. Alors, c'est suite à ces débats, si tu veux, il y a plein d'opinions comme ça qui se font entendre et de débats qui sont relancés, quoi. En particulier, j'ai lu sur ZDNet un journaliste qui appelait à reconsidérer le concept de puce open source. Moi, je pense qu'en fait, il est un peu à côté du sujet parce que il s'acharne beaucoup sur l'architecture x86 d'Intel. Alors que le problème, en fait, le problème qui nous intéresse, il a rien à voir avec l'architecture des CPU. C'est à voir avec la manière dont ils sont optimisés et implémentés. Donc, c'est pas la même chose.
Et s'ils étaient open source, on n'aurait peut-être pas trouvé plus rapidement l'exploitation de cette faille.
Peut-être pas. En fait, la question se pose. C'est vrai que est-ce que ça serait pas une bonne idée d'avoir des designs de puces ouverts, gratuits, c'est comme une sorte de Linux du composant. En fait, ça existe déjà. Sun avait libéré l'architecture Spark, c'était OpenSpark. Depuis, Sun a été racheté par Satan, par Oracle, et bon, personne ne va se risquer à utiliser une IP rachetée par Oracle. Hein, personne. On va leur laisser, ce sera très bien. Donc, globalement, il y a des initiatives académiques, comme RISC-V, chez Berkeley, par Berkeley, quoi, par l'université de Berkeley, qui est un plan de CPU 64 bits, qui est complètement open source. Mais par exemple, si tu veux, ça c'est un bon exemple, parce qu'en fait, ça c'est une base. Elle spécifie pas les optimisations particulières, et en particulier, elle spécifie pas d'exécution spéculative, ou dans le désordre. C'est juste que, on peut le faire ou pas, ça dépend de toi, tu vois. Donc en fait, c'est à chaque implémentation particulière de RISC-V. Et en fait, il y en a un, par exemple, il y a Low Risk, c'est un projet de CPU très peu puissant à très faible coût qui utilise le RISC-V. Alors, c'est intéressant. Dans l'idée, évidemment, ça s'inspire du succès colossal de Linux. C'est devenu un système universel, utilisable, tu peux l'utiliser sur l'internet des objets, quoi, dans des petits machins, jusqu'au data center. Et avec un effort collectif semblable, est-ce qu'on pourrait pas avoir une famille de puces ouverte, tu vois, que n'importe quel fondeur pourrait ensuite produire sans surcoût? Ça serait génial. Et franchement, j'aimerais le voir un jour. Franchement. Il faut pas croire que ça résoudrait tous les problèmes, tu vois. Tout d'abord, il faudrait produire un produit compétitif. Pour ça, il faut beaucoup de cerveau. Et puis bon, moi, j'ai l'intuition qu'il y a quand même moins d'ingénieurs en microélectronique capables de pondre des designs CPU que d'informaticiens qui soient capables de contribuer à du code.
Eh oui.
Tu vois. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais les compétences me paraissent un peu plus spécifiques. En plus, c'est un secteur qui est ultra spécialisé. Il y a des ingés qui peaufinent leur truc depuis des décennies. Les enjeux économiques sont énormes. Hein. Les clients sont prêts à dépenser beaucoup plus pour quelques juste pourcents de vitesse supplémentaire. Pour s'imposer, il faudrait que le design soit vraiment, vraiment top niveau. Donc, c'est quand même pas évident. Et puis bon, les projets open source, ben, ils peuvent avoir des bugs aussi. Et parfois même de très gros. Tu vois, tu te souviens de Heartbleed, ce qui était cette vulnérabilité d'OpenSSL. On en a beaucoup parlé cette année, hein. Donc, c'est une belle idée. J'aimerais bien la voir se concrétiser, honnêtement, hein. Mais il faut pas croire que ce serait une solution magique non plus. L'open source, c'est une solution, peut-être.
C'est intéressant de la garder à l'esprit. Et puis tu parlais de puce Rubik's Cube. Tu peux nous en dire plus?
Ben ouais, mais alors plus profondément, c'est pour illustrer le truc aussi. Hein, tu vois, les recherches sur comment rendre les CPU structurellement plus sécurisés, elles continuent encore. Et alors le CPU Rubik's Cube, bon, c'est même pas moi. Hein, c'est des gens qui disent ça. C'est donc un projet qui est financé quand même à 3,6 millions de dollars par la DARPA. À l'université du Michigan. Et c'est eux qui utilisent ce nom pour désigner Morpheus, puisque c'est le nom de leur puce ultra sécure. Alors Morpheus parce que, justement, ça se morphe, je suppose. Alors l'idée, c'est de changer constamment la position des informations que traite la puce. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle
comme un virus, SLR. Quoi.
Ouais, si tu veux. En fait, ça ressemble plus à la SLR. Tu as entendu parler de la SLR, l'Address Space Layout Randomization?
Non, je connais la SMR, mais je crois que c'est...
Ouais, maintenant, on connaît bien la SMR. Mais avant, il y avait aussi la SLR. Alors, la SLR, c'est tout simple. C'est une technique qui consiste à placer les programmes à des endroits aléatoires en mémoire plutôt que fixes. Du coup, un hacker ne sait pas a priori où en mémoire se trouvent les informations qui l'intéressent, et ça lui complique beaucoup la vie. Alors la SLR, c'est utilisé dans tous les OS modernes, quasiment. Hein. Donc ici, on aura une idée un petit peu analogue, mais au niveau de la puce. C'est-à-dire que même au niveau du CPU, les infos seraient non seulement stockées à des endroits aléatoires, mais en plus seraient constamment réarrangées à la volée. Bon, écoute, d'après la DARPA, il y a 7 classes de vulnérabilité principales qui constituent 40% de la surface d'attaque. Bah évidemment, bah, ce sont ces 7 portes que Morpheus va tenter de fermer. On verra bien. Réponse dans 1 ou 2 ans.
Bah, en tout cas, c'est hyper intéressant de comprendre ce fonctionnement, ouais, puis de s'imaginer un petit peu toutes les solutions qui doivent fourmiller ou tenter de fourmiller un petit peu partout à droite à gauche. Juste pour conclure cette rubrique sur, on pourrait dire que c'est presque une chronique des composants amenée par l'actualité qu'on vous apporte là et que tu as détaillé avec ta belle image de la famille Castor. Juste donc pour conclure que Samsung est désormais le nouveau numéro 1 des semi-conducteurs et a donc dépassé Intel. Au niveau du chiffre d'affaires, ils ont réalisé 61,2 milliards de dollars sur le marché des puces électroniques en 2017, contre 57,7 milliards de dollars pour Intel, un signe de plus qu'Intel a peut-être des questions à se poser au-delà de la médiatisation de cette faille injustement attribuée à Intel. Il y a peut-être quand même des petites choses qui tournent pas tout à fait bien rond là-bas et qui pourraient aller un peu mieux. On va continuer sur un registre pas si éloigné que ça finalement, puisque on va continuer à parler de ce que tu as dénommé la foire faille. C'est pas la foire fouille, c'est la foire faille, parce que l'actualité pullule de ces sujets de perte de sécurité et de manière de les exploiter. Le premier qu'on avait listé, c'est une info qui a pas mal circulé et qui évidemment est un peu médiatique parce que on a eu là, je pense, une explosion de la commercialisation des enceintes connectées, en particulier les enceintes connectées intelligentes. Je pense que c'est, là, on l'avait noté aussi, on avait prévu d'en parler, mais des Google Home, il s'en est vendu un par seconde pendant la période des fêtes, ce qui est quand même assez monstrueux. Et du coup, je viens de déclencher juste à côté, je sais plus comment on l'arrête, c'est ça ? Non ? Voilà. Pardon, excusez-moi. Et en parallèle de ça, il y a les fameuses donc enceintes connectées, pas forcément intelligentes, mais les Sonos, les Bose, etc. Et il y a a priori un gros patch là qui est tombé parce qu'il y avait une manière d'exploiter ces enceintes pour en gros leur faire diffuser ce qu'on voulait, parfois même des trucs assez flippants. Finalement, on se rend compte un petit peu avec le recul et en creusant que c'est pas forcément que les enceintes qui posent problème, mais les enceintes qui posent problème, notamment quand elles sont également dans un réseau qui n'est pas parfaitement sécurisé, Guillaume.
Ouais, ben j'ai vu ça. Hein. C'est alors là. Tu vois, moi, ce que j'ai pensé, premièrement, c'est que bon, là, ça a été détourné façon Halloween, tu vois, avec des bruits un peu flippants. Moi, si j'avais dû pirater la bosse d'un ennemi, ou peut-être même d'un ami, en fait, j'aurais sans doute diffusé la bande-son d'un bon gros porno à fond. C'est toujours très classe.
C'est clair, et surtout, ça aurait justifié le numéro de l'épisode.
Exactement. Ah merde, c'est vrai. Bon, enfin, tous les cas, plus sérieusement, je pense que 2018, hein, et les années qui vont suivre, là, vont finir par déboucher sur une apocalypse de l'Internet des objets. Je veux pas dire qu'ils vont tous exploser en même temps, mais je pense qu'on va avoir des cyberattaques sur ce genre de truc d'une ampleur qu'on soupçonne même pas. Parce que, attention, je vais faire mon instant vieux con, mais dans le temps, quand on avait un parc informatique relié en réseau et à l'extérieur, il y avait un mec formé qui gérait tout ça. Aujourd'hui, dans un foyer lambda, il y a un réseau avec plus de machines connectées qu'une PME de l'époque. Hein. C'est un vrai parc informatique, en fait. Sauf que c'est pas géré. Donc, soit les machines sont bétonnées de base, soit c'est une cata en devenir. Alors bon, des fois, c'est bien bétonné, hein, des fois.
On continue avec quelque chose qui n'est pas sans rappeler des éléments d'actualité qu'on avait eu il y a pas si longtemps que ça, où en gros on spéculait sur le fait que Facebook était peut-être en train d'écouter ce qui se passait autour de vous pour vous faire du ciblage publicitaire, ce qui n'a jamais été démontré et ce qui même aurait été plus logiquement pas vraiment le cas en fait. Même si techniquement c'est tout à fait quelque chose qui peut être mis en œuvre. La preuve. Alfonso, c'est un petit mouchard qui s'installe quand vous installez aussi une application, un jeu ou n'importe quel applicatif que vous pouvez avoir l'habitude d'installer sur votre application. Il y aurait à peu près 250 applications qui seraient en gros atteintes par ce petit Alfonso qui va détecter les sons autour et qui va collecter de la donnée pour aider en gros à du ciblage publicitaire. Alors le truc est assez intelligent hein, parce qu'il peut détecter des sons. Même quand le smartphone est dans la poche, il suffit tout simplement d'exploiter le fait que les applications peuvent tourner un petit peu en tâche de fond. Alors évidemment, ils se défendent, hein, eux, de leur côté, la société qui est derrière ce service, en expliquant que, bon, ils disent que, d'une part, bon, on écoute, oui, c'est vrai, mais on n'écoute pas vos conversations. On n'écoute que les trucs qui peuvent nous permettre de mieux vous cibler publicitairement, ce qui est très rassurant. Et puis, ils exploitent aussi le fait qu'ils disent, quand vous installez une application, vous autorisez l'application à accéder au micro. Alors, c'est un petit peu tordu parce que quand on accepte qu'une application utilise le micro, on sait pas vraiment toujours pourquoi on le fait et soyons honnêtes, reconnaissons-le, on a tendance à cliquer OK juste pour utiliser l'application qu'on vient d'installer. Même si on ne sait pas toujours à 100% ce à quoi ça sert. En même temps, il y a parfois des trucs un petit peu bizarres. Mettons un jeu où on fait avancer trop dans sa chambre. Il y a très peu de raisons que l'application ait besoin du micro. C'est quand même là encore quelque chose qui fait froid dans le dos en s'imaginant que peut-être on va découvrir demain qu'il y aura un maxi Alfonso qui sera installé par tout le monde et qui a dans la même proportion que nos microprocesseurs qui sont tous vérolés depuis 20 ans, y a peut-être des applications qui vont avoir collecté du son et des conversations pendant très longtemps, peut-être même d'autres choses. Ça continue à te faire froid dans le dos, j'imagine, Guillaume, ça ?
Bah oui, forcément, toujours un petit peu. Écoute, tant qu'on les installe pas... Tant qu'on les installe pas sciemment, tu vois, tant qu'on n'achète pas un appareil comme ça qui sera micro ouvert, qui nous écouterait tout le temps, qu'on le met pas dans son salon, ça va.
Tu m'étonnes. Tu as noté, toi, de ton côté, des petits suivis sur le chat et la souris, le jeu du chat et de la souris à laquelle se livrent les acteurs de la pub et les adblocks, si je dis pas de bêtises.
Ben ouais, tu sais, la pub sur Internet, c'est un petit peu notre Dallas à nous, tu vois. Il y a du suspense, des intrigues, une lutte éternelle, fratricide. Parce que c'est vrai que la pub, on l'aime, on la déteste. Bon, surtout, on la déteste. Mais même si on la déteste, sans elle, quelle tronche aurait Internet, tu vois ? Parce que bon, voilà, de plus en plus de gens utilisent des anti-pubs. Hein. Alors aux US, c'est 27%, 30% prévu en 2018, et en France, j'ai vu passer 36% l'an dernier.
Bon. Ah, on est en avance là-dessus.
Ouais. Non, si vous en utilisez, vous savez sans doute que beaucoup de sites en sont conscients. Ils vous le font savoir. Donc parfois, ils vous demandent de bien vouloir les whitelister avec une photo de chaton, ou bien alors ils te virent tout simplement un coup de pied. En fait, il y a des comportements qui sont visibles, mais c'est que la face cachée de l'iceberg. Tu vois, je dirais la partie immergée de la lune. Parce que selon une étude de l'université de l'Iowa, 38% des 1000 sites les plus visités et 30% des 10 000 sites les plus visités ont des dispositifs de détection des adblockers. Et souvent, ils font rien en fait. Hein. Ils prennent des notes et c'est tout. Ils prennent pas de contre-mesures pour le moment. Par contre, aussi, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de réorganiser la page afin que les pubs passent quand même. Alors, la technique assez rigolo, c'est de mettre une fausse pub, une sorte d'appât, sur une page pour voir comment votre navigateur va se comporter et y répondre. Alors évidemment, hein, au fur et à mesure, les sites deviennent de plus en plus malins dans leur guerre anti-pub, et les anti-pubs doivent évidemment se mettre à niveau. Alors c'est très très loin d'être gagné tout ça. Ça continue, hein, et des universitaires se sont emparés du sujet, et du coup, ils se sont mis du côté des adblockers, et ils ont mis en place un proxy local par lequel ils font transiter les pages, et ils vont réécrire le code JavaScript à la volée pour que le site en face pense qu'il n'y ait pas d'anti-pub. En fait, il s'agit du premier anti-pub. Bon, franchement, je me demande vraiment jusqu'où on pourra bien aller avec cette escalade, mais bon, je vous en ferai part.
Moi, je me suis fait une conviction sur le sujet, c'est que la guerre ne s'arrêtera jamais, que les pourcentages vont fluctuer dans un sens pendant très longtemps, puis dans l'autre, jusqu'à ce que peut-être un modèle économique nouveau révolutionne les usages du web et l'économie du web. On avait parlé hein, du minage sur les posts des internautes qui sont sur un site. Ça peut être une piste, mais je suis sûr qu'il y a de bonnes âmes très malignes qui vont trouver des trucs plus intelligents que la pub. Et le jour où ça arrivera, ce sera quand même vachement cool. Un monde idéal où tu profites d'un site internet de manière épurée tout en sachant que tu contribues économiquement à sa viabilité. Quel beau rêve. Un petit passage aussi autour des gestionnaires de mots de passe. Moi, je suis très utilisateur du gestionnaire de mots de passe tiers qui est OnePassword. Il y en a d'autres. Hein. Il y a LastPass, Dashlane. Mais il y a aussi les gestionnaires de mots de passe qui sont intégrés au navigateur. Et en tout cas, tous ces gestionnaires de mots de passe, il y a une belle faille qui, je pense, va achever de convaincre Guillaume Poggiaspala de ne jamais utiliser de gestionnaire de mots de passe. C'est que donc il y a une faille qui permet d'exploiter la manière dont fonctionnent ces mêmes gestionnaires de mots de passe pour que quand il y a un formulaire de connexion, grosso modo, on puisse vous suivre un petit peu à la trace ou en tout cas vous retrouver dans votre parcours sur le web. C'est là encore une belle faille. J'imagine, Guillaume, que ça te donne envie de placer le légendaire, je vous l'avais bien dit.
Bon, pas du tout. Par contre, c'est vrai que, bon, c'est encore du tracking pub. Et tu vois, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai énormément de mal à me positionner dans cette histoire de pub sur Internet, quoi, tu vois. On dit, si vous bloquez la pub, vous asphyxiez les sites. Ouais, mais c'est souvent vrai. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut tolérer un tracking massif et une expérience de surf pourrie? C'est-à-dire, et je parle même pas du volet éthique et du côté bourrage de crâne, quoi, dans certaines situations, tu vois. Comment t'appelles ça quand tu te tapes 20 fois exactement la même pub de 20 secondes, alors t'as juste envie de mater des bandes d'annonces, tu vois. Franchement, je sais plus.
Toujours dans la manière d'exploiter les défauts des systèmes technologiques d'aujourd'hui, mais dans un registre assez différent, on va reparler de nos amis les intelligences artificielles qui sont là un petit peu mis à mal. Alors, c'est intéressant à double titre. C'est que, d'une part, vous allez voir que sur le fond de l'histoire, c'est assez original. Et puis, accessoirement, vous allez voir aussi que cette histoire permet de remettre, encore une fois, dans le contexte, la relative intelligence de l'intelligence artificielle. Mais je ne vais pas vous répéter ce qu'on dit depuis pas mal d'épisodes maintenant. On a on est tous arrivés un petit peu à la conclusion dans Tech Café que un algorithme d'intelligence artificielle ne donnait pas lieu en soi à une inquiétude massive telle que certains sont en droit de le ressentir pour notre avenir en tant qu'humain, mais par contre peuvent présenter énormément de biais sur la manière dont ils sont alimentés. Et on en a parlé, et je le redirai pas plus désormais tant que ce sera pas la peine, mais cette nouvelle histoire, c'est nos amis les ingénieurs de Google qui, quand ils n'étaient pas occupés à identifier les failles de nos microprocesseurs, se sont un petit peu amusés à tromper les algorithmes d'intelligence artificielle. Allez voir sur le lien dans les notes de l'émission, vous allez voir que c'est très très visuel. Il y a d'un côté une image qui est grosso modo ce que voit l'intelligence artificielle et à droite ce qu'il comprend probablement être présent sur l'image. Alors au début, on met une banane. Et puis, tout simplement, la personne arrive à mettre en place un petit sticker. Donc, c'est quand je vous dis un sticker, c'est vraiment un morceau de papier hein, de la forme ronde avec une image un peu chelou, du même style que ces fameuses œuvres d'art qui étaient entre guillemets rêvées par les intelligences artificielles. Et tout simplement, ça fait perdre un petit peu la boule à l'intelligence artificielle, qui arrive très vite parce qu'il a vu juste avant un toaster, à considérer après avoir vu ce sticker aux côtés d'une banane que la banane est un toaster. Et ça le rend vraiment très stupide. Enfin, tout d'un coup, on a beaucoup moins peur de l'intelligence artificielle quand on voit ce petit détournement. Et j'ai trouvé ça, moi en tout cas, assez rigolo de voir à quel point le simple fait de juxtaposer un petit sticker à côté d'une banane pouvait lui faire perdre complètement la boule. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être facilement corrigé, Guillaume. Je me trompe ou pas?
Je suis pas sûr que ce soit, en fait.
Ah ouais?
Alors, c'est super intéressant. Franchement, c'est vraiment super intéressant. J'avais pas vu passer et je pensais même pas que c'était possible, en fait. Tu vois, avec un unique sticker, unique, hein, il court-circuite toutes les images. Et le sticker est, en fait, il est universel et tu peux la placer n'importe où dans l'image, tu vois. Donc, c'est assez fascinant. Ça montre bien aussi que le réseau fonctionne pas du tout comme notre cerveau, hein, parce que nous, en général, si on nous montre une banane avec un sticker délire, ben, on reconnaît quand même la banane. Voilà. Et ce sticker, comme tu l'as mentionné, en fait, il est donné par le réseau lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir accès au modèle pour construire le sticker. En fait, ils utilisent le modèle en mode génératif, comme quand ils font effectivement ces images cheloues, là. Et c'est lui, en fait, qui donne quelle est la pire image qu'il puisse imaginer, quelque part. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est fascinant, même parce qu'on pourrait voir, donc, le machine learning comme une sorte de software 2.0. Donc c'est, alors je sais pas de moi, j'ai vu passer l'expression, c'est une sorte de software 2.0 parce que c'est une manière de faire du travail des machines alors qu'on les programme pas directement par des instructions mais qu'on les programme par des données en quelque sorte. Bon, du coup, donc le pendant de ce software 2.0, ce serait une sorte de hacking 2.0, tu vois. Une nouvelle manière de programmer les machines, mais aussi une nouvelle manière de les hacker. Tout ça est très logique finalement, mais c'est vraiment très rigolo.
Une nouvelle arme anti-piratage, le chantage. Ah oui, on n'y avait pas pensé, Guillaume.
Mais oui, mais bien sûr, le chantage, ça marche toujours, c'est très bien, en fait. Bon, alors, justement, on en parlait, on parlait que de ça. Les objets connectés, il y en a de plus en plus. Ils s'immiscent de partout dans nos vies. Et ça devient des faiblesses qui peuvent être non seulement utilisables par les hackers, mais aussi par votre fournisseur d'accès Internet. Maintenant, on a un exemple, hein, aux États-Unis, parce que c'est only in America, j'espère. Armstrong Zoom, c'est un FAI américain du nord-est des États-Unis et il aime pas bien les tipiacs. Tu vois, s'il considère que t'es un pirate, que tu utilises des plateformes d'échange de fichiers, non seulement il menace de ralentir ta connexion, mais en plus de couper l'accès aux objets connectés, de couper l'accès Internet direct complet des objets connectés. Alors, je rappelle qu'aux États-Unis, désormais, neutralité du net égale OSEF. Donc, fini l'accès à votre caméra de surveillance, le thermostat, les lampes Hue, le système d'alarme, etc. Alors, tu peux toujours utiliser les machines en local, mais si jamais tu as un équipement domestique qui nécessite une connexion, eh ben c'est dommage. Donc voilà, alors c'est très rigolo, moi j'ai trouvé ça assez cocasse, parce que c'est un truc, donc c'est un FAI du nord-est des États-Unis, une des régions les plus froides, et ils annoncent que vos thermostats Nest, ils marchent en plus. Ah ben dommage.
dommage, effectivement. T'avais noté aussi, on va parler un petit peu de WeChat qui a priori fait comme notre petit acteur d'Alfonso tout à l'heure, n'enregistre rien du tout, hein.
Non,
c'est
mais
promis.
Là, c'est Tencent. Je fais un petit follow-up Chine parce que bon, j'en ai beaucoup parlé au dernier podcast et j'ai surtout parlé d'Alibaba. Et j'ai aussi évoqué Tencent et WeChat, et c'est WeChat, donc c'est le Facebook maison, hein, et le champ d'action, et d'ailleurs il est comparable et même supérieur à celui de son concurrent. Donc sur WeChat, on chatte, on clavarde, devrais-je dire, désolé. Mais bon, même en Chine, certains se préoccupent quand même un minimum de leur vie privée, et d'ailleurs, comme monsieur Li Shufu, qui est président de Geely, qu'on connaît absolument pas, mais qui est quand même le 7e constructeur automobile chinois.
Et il aurait dit,
Geely, ouais, Geely. G-E-E-L-Y, ouais, je sais pas. Geely. Et putain, tu te rends compte que j'ai même pas pensé à faire de blague là-dessus.
C'est très étonnant.
Ah, j'ai honte.
Enfin, bref. Heureusement qu'on est là pour rattraper ensemble. Ouais,
c'est vrai, heureusement que tu es là. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Choufou, de Geely? Il aurait dit, à la cantonade, Ponyma, oui, ils ont des noms, oui, je sais, bon, c'est PDG de Tencent, on le connaît pas très bien non plus, doit lire toutes nos conversations quotidiennement. Alors, bien sûr, Tencent a immédiatement répondu, officiellement, même que non d'abord, c'est trop même pas vrai. Bon. Sauf que c'est très difficile à croire. Parce que rien que dans les conditions d'utilisation de WeChat, Tencent se réserve le droit de divulguer ou d'utiliser les informations de ses clients sur demande officielle, et que depuis juin, il y a une nouvelle loi de cybersécurité qui oblige les entreprises à conserver les logs pendant au moins 6 mois. Et en plus, WeChat développe un système de scoring financier analogue au Crédit Sésame d'Alipay dont j'ai parlé dans le précédent podcast. Et le parti, ou plus précisément le CAC, le Cyberspace Administration of China, je rigole pas, ça s'appelle vraiment comme ça, vient depuis septembre d'établir une nouvelle règle qui force les entreprises du web à établir un score pour les utilisateurs des chats en ligne. Et ça, en fonction de leur opinion politique. Alors du reste, et les dissidents ça, ont déjà largement expérimenté ce genre de truc, hein, puisque l'an dernier, au moins 3 jeunes Chinois ont été emprisonnés pour avoir fait des blagues non politiquement correctes sur WeChat. Bon, voilà, c'est petit follow-up.
Ouais, c'est, si vous n'avez pas écouté le précédent épisode de Tech Café, effectivement, Guillaume a largement parlé de cette nation qui est la Chine. Et tiens, d'ailleurs, notamment, effectivement, le mode de fonctionnement avec les caméras qui était assez édifiant. On va faire un petit détour par le monde merveilleux des crypto-finances et des crypto-monnaies avec, c'est peut-être d'ailleurs la preuve d'un premier niveau de maturité de la crypto-monnaie. C'est que le phishing s'attaque au site de crypto-finance. Il y a tout simplement un site qui ressemble vraiment en tout et pour tout à un site qui sert de portefeuille et de transactions de crypto-monnaie qui s'appelle Binance ou alors Binance, je ne sais pas comment on doit le prononcer, mais que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, qui a l'air d'être une plateforme très connue, je pense, des aficionados de crypto-monnaie. Et en gros, c'est un site qui ressemble en tout et pour tout dans sa page d'accueil au site original. Mais dès que vous cliquez, dès que vous intervenez, dès que vous allez naviguer dans le site, vous retrouvez le site original, mais avec une espèce de code qui fait que, en gros, il y a des profits de la part des petits malandrins qui sont derrière. Je trouve ça assez malin une manière d'exploiter comme ça les crypto-monnaies. Et je pense que là aussi, comme on le disait tout à l'heure pour l'univers du matériel, on pense souvent à crypto-monnaie comme étant quelque chose de sécurisé qui peut être peut-être moins la cible auprès des utilisateurs que peuvent l'être les banques aujourd'hui vis-à-vis d'attaques telles que le phishing par exemple. Force est de constater que non, il va falloir revoir la copie et bien évidemment qu'il y a des risques sur tous ces aspects de transaction. Et qu'il va falloir les surveiller de près, évidemment. D'autres choses sur la crypto-monnaie, sur les crypto-monnaies, on a DigMine et non pas Digimine ou Digimon comme aime beaucoup regarder mon fils. DigMine qui est un cryptoware qui circule en ce moment sur Facebook Messenger. Donc Guillaume, toi qui vas souvent sur Facebook Messenger, fais attention. Ça ressemble à une vidéo que vous pouvez télécharger. C'est quand même très bizarre. Hein. C'est à la hauteur des virus qui circulaient il y a 10 ans par mail. Donc c'est par exemple vidéo -66643.zip par exemple. Et quand vous le téléchargez, c'est tout simplement un malware. Est-ce que tu vas redoubler d'attention, Guillaume, quand tu vas télécharger les pièces jointes des messages que tu reçois sur Facebook Messenger ?
Oui, bien sûr, sur mon Facebook Messenger, je reçois et j'ouvre quotidiennement des fichiers zip qui s'appellent hotgirl.zip ou ce genre de truc, bien sûr. C'est sûr que c'est presque pas chelou, tu vois, mais bon. Après, c'est sûr que voilà, si tu t'y connais pas du tout, que tu t'en fous un peu et que tu n'écoutes pas tes cafés, c'est mal. Ben oui, forcément, ça peut arriver, mais normal.
Qu'est-ce qu'il fait ce malware, hein? Tout simplement, il installe une extension navigateur, il envoie un message à tous les contacts Facebook Messenger de la cible. C'est comme ça que j'ai été atteint à mon tour, hein. C'est que ça avait circulé par Guillaume, faut que j'aille pas là. Et puis ça télécharge tous les composants nécessaires pour lancer du minage de crypto-monnaie sur ta machine et donc mettre à profit tes ressources matérielles pour le bien lucratif des malandrins qui sont derrière cette attaque. C'est pas joli joli. Un dernier élément autour des crypto-monnaies, Guillaume.
Ben oui, parce qu'en plus d'être millionnaire grâce à Facebook Messenger et à tes contacts, je suis millionnaire parce que grâce à Starbucks. Parce que tu sais, CoinHive et le crypto-jacking, c'est notre grande passion, on en parle tout le temps. Et c'est ce fameux script de minage de Monero qui peut être lancé par une page web. Et ben il est partout, et il est peut-être même dans ton Starbucks, dans ton café, puisqu'il y a un développeur espagnol a montré qu'il pouvait modifier une attaque classique utilisée dans les cybercafés pour injecter du code HTML aux pages demandées par les clients, hein, pour inclure le fameux script. Donc le truc, c'est tu te logues sur le wifi de ton café favori et tu t'es en train de miner une crypto-monnaie pour le compte d'un pirate. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça durera pas super longtemps parce qu'en mode minage, à mon avis, ta batterie, elle fera pas trop long feu. Bon, pour l'instant, ça fonctionne pas sur les pages HTTPS telles quelles, mais bon, c'est sûrement une question de temps avant que la méthode ne soit améliorée et automatisée. Une autre manière de garder son café au chaud, pardon.
C'était tout à propos. Dans Tech Café, c'est très bien. On enchaîne avec la rubrique En bref, pour essayer de conclure cette émission avec quelques sujets un petit peu plus rapides et qui sortent des sujets anxiogènes de la sécurité. On parle quelques secondes.
Oui, c'est pas anxiogène du tout, ça. La voiture qui lit dans tes pensées, c'est pas du tout anxiogène, ça, c'est ça.
Des usages de demain, parce qu'on parle souvent de conduite autonome. C'est Nissan qui a dévoilé une nouvelle manière de conduire, qui n'est pas totalement encore de la conduite autonome, mais qui est quelque chose d'un peu intermédiaire, qui vise à dire qu'on va tout simplement, quand on conduit, on le sait, hein, quand on passe son permis de conduire et le code de la route, on sait qu'il y a un temps de réaction entre le moment où le cerveau comprend qu'il faut faire quelque chose et le moment où on fait quelque chose, effectivement. Et typiquement, évidemment, comme on va très très vite, une distance pour du freinage, il faut prendre ça en compte, c'est très important. Mais c'est très simple, si on squeezait cette partie très lente qui sont nos nerfs, qui font fonctionner notre corps, et que tout simplement on branchait la voiture sur notre cerveau. Alors c'est pas sans évoquer les sous-entendus d'objectifs de l'entreprise d'Elon Musk, Neuralink, mais là c'est très concret, c'est Nissan qui propose donc un nouveau mode de conduite qui exploite votre cerveau et qui permet de faire gagner 0,2 à 0,5 secondes par action. Et il faut reconnaître qu'effectivement dans la réalité, si on arrive vraiment à gagner ça en termes de temps de réaction, ça peut sans doute éviter plein de situations catastrophiques. Je parlais évidemment de l'impact sur le freinage, sur lequel une très courte durée à une grande vitesse peut avoir des impacts très importants. Dans un premier temps, c'est présenté là ce B2V, ce B2V comme étant une aide à la conduite, mais évidemment, on peut très bien imaginer une étape où demain il y a la conduite autonome, mais en plus, nous, de manière passive, on regarde la route et on pourrait avoir notre cerveau qui serait lu pour qu'on puisse aussi avoir cette donnée en plus de tous les capteurs qu'il y a dans une voiture pour conduire. Ça te fait peur, toi, Guillaume?
Non, franchement, non, ça me fait pas vraiment peur, étant donné que j'y prends pas une seconde, quoi, mais, d'un point de vue de recherche fondamentale, ok, hein, tu vois, ça peut être intéressant de voir comment le cerveau réagit, tout ça. Mais pour conduire une voiture, tu vois, enfin, je sais pas, si tu m'avais dit que c'était pour les pilotes de chasse, ok, pourquoi pas. Mais enfin, pour aller au Jiffy, sérieusement, tu vois. Je sais pas, je pense que c'est un petit peu hors de propos, bon, puis, c'est... Je sais pas, on entrevoit de plus en plus un futur où les voitures vont se conduire toutes seules, tu vois. Alors, pourquoi est-ce qu'elles se préoccuperaient de ce que tu penses? Elles s'en foutent. De toute façon, en général, tu regardes pas la route. T'es encore en train de télécharger tes vidéos zip sur Messenger. Tu vois? Je sais pas trop. Bon. À voir.
À suivre. En tout cas, je trouvais l'initiative sur le plan technologique hyper intéressante, comme tu dis, sur la recherche fondamentale. Un petit mot pour dire qu'en France, sur la période de janvier à septembre 2017, Netflix est passé devant Orange en termes de prestations de VOD. Il détrône même MyTF1, c'est dire, qui tombe à la troisième place. Donc Netflix, Orange et MyTF1 sont les trois acteurs principaux de la VOD. Il faut dire, moi, je reconnais humblement que Netflix, j'avais testé il y a de ça quelques temps et je me suis réabonné au service depuis un an et il faut dire que j'en suis vraiment très satisfait, à part pour Bride dont je parlerai dans le bonus, mais je ne spoil pas les bonus et attention, on parlera aussi de Nabila. On continue avant tout ça à parler dans notre rubrique en bref d'un usage auquel on ne pensait pas forcément et qui commence à être des usages détournés de certaines fonctionnalités de départ. Je m'explique, Roomba, c'est cette fameuse marque d'aspirateur robot que peut-être certains d'entre vous ont chez eux. Il n'y a pas que Roomba, hein, évidemment, il y a plein d'aspirateurs robots, mais en gros, qu'est-ce que peut faire un aspirateur robot en plus d'aspirer chez toi? Eh ben, il peut se connecter à ton Wi-Fi. Bah oui, il est connecté. Et comme il peut se connecter à ton Wi-Fi, il peut, centimètre après centimètre, mesurer la performance de ton réseau Wi-Fi. Et c'est par exemple une des fonctionnalités de bord, si tant est que l'expression existe, qu'on pourra imaginer sur ce type d'appareil, c'est d'identifier des zones avec un Wi-Fi faible et donc de faire une cartographie de ton Wi-Fi et donc, indirectement, de proposer à l'utilisateur de l'aspirateur robot de lui dire, bah tiens, tu devrais peut-être t'acheter un répétiteur Wi-Fi pour équiper ta maison d'une meilleure couverture Wi-Fi. Tu devrais d'ailleurs cliquer sur ce lien pour en acheter un à Roomba. Au-delà de la blague et au-delà de l'aspect mercantile et de l'aspect peut-être un peu gênant de rajouter de la donnée comme ça, je trouve ça intéressant de se rendre compte que ces acteurs tels que Roomba ont bien compris que derrière le business de l'aspiration et du ménage automatisé, il y a d'autres effets de levier économique à trouver et qui peuvent apporter des usages complémentaires. Je trouvais ça juste intéressant sur cet aspect-là. Est-ce que tu as un aspirateur robot, Guillaume ?
Bien, écoute, non, j'ai pas d'aspirateur robot. J'utilise mes pieds pour à peu près tout, c'est-à-dire sniffer le wifi et passer l'aspi et tout ça.
Oh là là, mais qu'est-ce
ouais,
que t'es pas
Je suis pas moderne, hein, je suis vraiment pas moderne.
C'est pas grave. On avait noté les performances de vente commerciale des Google Home, mais on va pas s'attarder dessus. On va par contre continuer à parler des assistants connectés, des assistants vocaux là sur les enceintes qu'on va commencer à voir à peu près tous chez nous. Je dis bien à peu près. Avec Amazon qui veut Alexa partout et qui a lancé un service. C'est une API en fait. Hein, c'est l'Alexa Mobile Accessory Kit qui va vous permettre en gros d'installer Alexa partout sur tous les petits appareils connectés, portables qui vont sortir. Vous allez tous pouvoir installer Alexa. Oui, vous les industriels qui vous préparez à commercialiser des casques, des montres, des bracelets ou que sais-je, des colliers connectés, vous allez tous pouvoir implémenter Alexa. Alors pas directement Alexa, hein, mais c'est en gros une technologie qui va vous permettre à votre objet connecté de mieux parler à Alexa sur le smartphone. Là aussi toujours assez intéressant sur l'aspect de la technologie et ce qui soulève toujours autant de questions avec une telle multiplicité des connexions et des interactions sur le net. Et puis, évidemment, c'est une belle opportunité pour Amazon d'inclure, et c'est des analystes qui ont commencé à soulever cette possibilité, et bien évidemment, on s'attend à ce que ça arrive bientôt, d'inclure de la publicité dans les conversations avec Alexa. L'exemple qui est donné hein, dans un des articles qu'on a mis dans les notes de l'émission, c'est tout simplement la conversation suivante, c'est « Alexa, achète du dentifrice. Ok, je peux chercher une marque de dentifrice comme Colgate. » Que préférez-vous ? Donc toujours avec cet aspect d'une publicité qui vous met en avant une marque parce que peut-être ils connaissent vos habitudes de consommation ou qu'au contraire, ils pensent que vous êtes pile dans la cible pour acheter telle ou telle marque, toujours en vous laissant évidemment le choix, dans un premier temps, d'acheter un autre produit, mais quand même une mise en avant publicitaire. T'es sûr, Guillaume, que tu veux pas t'équiper d'un assistant connecté chez toi ?
La pub sur Alexa, putain, c'est pas possible. En même temps, bien sûr, quoi, c'est évidemment. Et d'ailleurs, pourquoi pas sur les Google Home bientôt, tu vois, c'est... Alors du coup, je pose deux questions, c'est, d'une part, est-ce qu'il y aura bientôt des adblockers pour Alexa ? J'espère que
oui, bien joué.
Et sinon, je me pose la question de savoir à quel point c'est légal, parce que c'est pas de la concurrence déloyale. Je veux dire, t'es une marque, tu fais un accord avec Amazon, et donc tu es promu par Alexa. Mais si t'as pas le fric pour faire l'accord... ton produit, jamais il se vend, quoi, globalement. C'est pas un petit peu une concurrence biaisée, ça? C'est quoi la libre concurrence? Elle est où, là?
C'est presque une absence de neutralité de la conversation de l'assistant.
Mais c'est exactement ça. C'est comme la neutralité du net, mais pour la vente. Bah, en fait, ça s'appelle la libre concurrence, je crois, tout simplement, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que moi, je vois comme un souci. Mais bon, peut-être je suis le seul.
Il va falloir suivre ça et c'est là où on a intérêt à ne pas élire n'importe
Après,
qui à la tête.
Je suis persuadé qu'il y a plein d'autres exemples, si tu veux, où justement il y a des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas parce qu'il y en a ailleurs, tu vois, que, enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre, mais enfin, en tous les cas, je te remercie de m'avoir donné une raison de plus de pas acheter d'assistant personnel. Merci beaucoup.
Je le savais. Un sujet peut-être qui va être un peu plus cher. On avait parlé des formats de vidéos, notamment avec ces histoires de standards, enfin de normes plutôt à H264, H265. Et on avait parlé du fait que Apple avait clairement joué la carte du format HEVC, qui est en gros le standard des appareils, notamment Apple depuis iOS 11 et iSierra, donc les derniers systèmes d'exploitation de la marque à la pomme. Et en face de ça, il y a l'AV1 qui est libre et gratuit et qui a été soutenu par à peu près tout le monde sauf Apple. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que au-delà du choix d'Apple d'avoir implémenté le HEVC dans les dernières versions du système d'exploitation, ils ont rejoint le consortium, l'alliance pour l'Open Media qui est derrière le fait de promouvoir le format AV1. Alors, deux pistes, hein, évidemment on n'aura pas la réponse, c'est soit ils ont en tête de faire machine arrière et d'adopter un autre format plutôt que l'HEVC, j'y crois peu, ou ils se laissent une porte de sortie pour éventuellement par la suite, si jamais ils voyaient qu'ils étaient trop dans la merde avec leur format seul de leur côté et que ça posait trop de problèmes, de dire qu'ils n'avaient pas trop perdu leur temps et qu'ils n'avaient pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Ça t'inspire un commentaire, Guillaume ?
Bah, juste, c'est très cool. Voilà. Si c'était décisif, je serais très très content d'avoir eu tort en disant que j'avais peur que la V1 subisse le même sort que son prédécesseur la dernière fois. Écoute, je suis ravi de voir que TK fait une force de persuasion aussi importante.
Mais oui, mais on est très écoutés. le sujet aussi qui a un petit peu buzzé sur l'aspect peut-être un peu plus politique aussi en France sur le sujet des usages de la tech, c'est la volonté du chef de l'État Emmanuel Macron de ne plus voir de Facebook sur le net et même de légiférer contre les fake news, ce qui n'est pas sans avoir suscité un certain nombre de réactions assez virulentes, enfin ou plutôt en tout cas, comment dire, des réactions qui étaient un petit peu étonnées de ce type de position de sa part notamment, qui paraît être un petit peu une opportunité. Ça donne un petit peu la volonté de surfer sur le combat contre les fake news, alors qu'en fait, d'un point de vue légal, quand on analyse les choses, il existe déjà tout ce qu'il faut en termes d'arsenal juridique. Il n'y a pas forcément autant de jurisprudence que ça. Et donc, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de rajouter une loi qui, finalement, dans les textes, n'a probablement rien apporté par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui donne un petit peu le sentiment de vouloir surfer sur cette opportunité. Tu as suivi un petit peu cette volonté politique, Guillaume, et c'est une question, bien entendu. Et est-ce que ça te donne envie de réagir?
Bon, non, mais enfin, mais tu l'as dit, tu l'as très bien dit, hein. C'est vrai que, on a déjà des lois, donc appliquer les lois qu'on a, c'est très bien, quoi. Surlégiférer, je suis pas sûr que ce soit une idée, l'idée du siècle. Après, voilà, ça permet de prendre la place médiatique. Ça, c'est, les positions politiques font ça depuis super longtemps. Voilà, on fait une loi, donc on occupe l'espace médiatique. Et dans les faits, c'est une loi qui, de toute façon, sera pas forcément appliquée ou pas complètement. Et voilà, quoi. C'est la loi qui régit les fausses informations, elle n'est pas de 1881. Enfin, je veux dire, ça fait un moment, quoi, tu vois. Donc, c'est comme t'as dit, quoi. Ça a l'air très opportuniste comme truc.
Un petit article qui est toujours passionnant, c'est le troisième volet d'une série d'articles. Ils sortent à de longues périodes d'écart, mais à chaque fois la conclusion est la même, voire même en pire avec le temps. C'est le fossé qui se creuse entre Google Maps et Apple Maps. Quand on compare un petit peu les usages dans le détail, on se rend compte que mois après mois et année après année, Apple Maps continue à s'améliorer. Un peu, mais devant, Google Maps commence à complètement écraser en termes de fonctionnalité, de fiabilité et de souplesse même de mise à jour son concurrent. Et clairement, Google Maps reste aujourd'hui une référence qui, en tout point, écrase donc la solution Apple. Un point très intéressant dans l'article qui est dans le lien... dont le lien est dans les notes de l'émission. D'une part, vous allez voir que c'est étoffé point par point et c'est justifié cette analyse. Et on en déduit aussi la stratégie qui est très googlienne, hein, qui est de dire on va se baser sur des systèmes automatiques qui vont, sur la base des images satellites, arriver à tirer des conclusions. Alors d'abord faire des photos, ensuite identifier des routes, ensuite identifier des bâtiments, ensuite identifier des bâtiments en 3D et ensuite identifier des bâtiments en 3D avec des petits détails et même avoir leur cartographie interne et des données fiables, ce qui évidemment écrase Apple Maps qui ne parvient pas à suivre la cadence. Ça ressemble quand même, cette volonté de la part d'Apple, à une espèce de coût irrécupérable, c'est-à-dire de se dire qu'ils ont investi énormément pour concurrencer Google Maps et s'en affranchir, sans arriver à une situation satisfaisante. Au point où ils en sont, ils se disent on va quand même pas tout arrêter maintenant, et en même temps ils savent que la guerre sera perdue d'avance face à Google Maps, et en même temps j'imagine ne serait-ce que d'avoir les fonctionnalités de celles d'Apple Maps doit évidemment apporter beaucoup à une entreprise, même si c'est pas aussi fiable et pertinent que Google Maps. On se demande par contre combien de temps ça va durer.
C'est pas que Apple Maps, hein. En fait, ça distance tous les autres. Parce que je sais qu'on oublie tout ça, mais il existe aussi Bing Maps, par exemple. Tu vois, il y a aussi TomTom, il y a aussi OpenStreetMap, etc. Et en fait, Google, il écrase tout le monde. Plusieurs fois. C'est-à-dire, en fait, il roule dessus, puis il passe la marche arrière, il roule dessus, puis il passe la marche à la première, il roule dessus, etc. Tu vois, plusieurs fois. C'est vraiment très, très impressionnant. Le niveau de détail, c'est absolument hallucinant. Même dans des bleds paumés, le mec, il te met les c'est limite, il te met pas les poubelles dans la rue, quoi.
C'est vrai, ouais. Il te dit quand est-ce qu'elles sont relevées aussi. Enfin, c'est très impressionnant. Et après tout, bravo. C'est une très belle performance sur le plan technologique. Et je crois que ça sert vraiment à tout le monde, même si on n'imagine pas les biais économiques que ça va amener tôt ou tard. Guillaume, toi et moi, il y a un truc qui nous turlupine et qui nous intéresse beaucoup. C'est le traitement contre les acouphènes. T'as trouvé une solution miracle?
Malheureusement pas miracle, mais c'est vrai que les acouphènes c'est lourd, tu vois, c'est quand même très lourd. Moi j'en possède un très modeste dans l'oreille droite, et bon franchement s'il disparaissait je pense qu'il me manquerait pas des masses. Alors moi j'ai la chance, le mien est très léger, et en général je l'oublie, mais bon dans certains cas les acouphènes ça peut devenir vraiment pénible et même handicapant. Alors c'est très très courant en fait, il y a 15% des Américains qui en souffrent, et parmi eux il y a 10% de ceux-là, de ceux qui en souffrent, qui subissent des symptômes qui sont suffisamment sévères pour les handicaper dans la vie de tous les jours. On estime même à 2 millions le nombre de gens dans l'incapacité de travailler à cause de ça aux US, quoi. Alors, c'est le trouble le plus fréquent chez les vétérans aussi. Et aux États-Unis, ils en ont beaucoup. Alors, du coup.
J'ai cru que t'allais dire chez les vétérinaires. Je me disais que c'était peut-être une revanche des castors, mais j'étais pas.
Non. Chez les vétérinaires, peut-être. Je sais pas, peut-être que ça hurle les animaux quand ils font.
Ah, peut-être. Je sais pas. On parle bien des vétérans de guerre,
ouais. Ouais, enfin moi je c'est plutôt les profs à mon avis qui ont des problèmes, mais bon, à tous les cas, il y a peut-être un espoir, parce que des chercheurs de l'université du Michigan expérimentent un nouveau traitement à base d'impulsions sonores et électriques synchronisées qui tente de faire revenir dans le droit chemin les neurones, alors c'est les neurones du noyau cochléaire dorsal. Parce que quand il part en couille, le noyau cochléaire dorsal, il devient hyperactif et il donne des acouphènes. Et les résultats sont très encourageants. Les patients ont rapporté des baisses significatives, voire la disparition carrément des symptômes. Alors malheureusement, tous les types d'acouphènes ne peuvent pas être traités comme ça. C'est que ce qu'ils appellent les acouphènes somatiques. Et en plus, le traitement n'est pas définitif. Mais bon, en même temps, il n'est pas non plus très invasif. Et donc, le répéter toutes les 2-3 semaines... ce serait pas catastrophique. Donc c'est quand même notable de voir un progrès dans ce domaine où moi j'ai l'impression que voilà les progrès ils sont rares, ou voire il y en a pas du tout, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est le désert, tu vois, d'habitude.
Ouais, il y a deux domaines très frustrants dans la vie qui ne bénéficient pas de grandes avancées, c'est effectivement les batteries et les acouphènes. Donc on espère que ça va s'améliorer, bien entendu. Tu voulais rebondir sur cette polémique des précédents numéros de Tech Café. En fait, on l'a pas plus traité que ça non plus, mais cette affaire des fameuses batteries d'iPhone qui amènent Apple à brider le fonctionnement de certains appareils sur certains systèmes d'exploitation, et tu voulais rebondir dessus à l'appui d'une étude qui effectivement est parue dans les news ces derniers jours, qui arrive à chiffrer, bon c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais quand même à chiffrer l'impact que pourrait avoir cette histoire sur les ventes de la part d'Apple. On peut peut-être préciser avant de rentrer dans le détail de cette analyse que Apple a effectivement communiqué suite au problème qu'on avait identifié, qui était de dire qu'un iPhone avec une batterie usagée avec avec le dernier iOS était ralenti pour préserver les batteries et préserver le fait qu'ils s'éteignent. Ils avaient absolument communiqué sur rien, et en plus de cette communication donc détaillée qu'ils ont fait depuis, ils ont annoncé que désormais les changement de batterie, ça coûterait plus $79, mais $29, ils font quand même un sacré cadeau. Est-ce que ça pourrait pas amener à baisser les ventes, ça, du coup? Et c'était un petit peu l'idée de cette étude, Guillaume.
Ben oui, parce que bon, déjà, bien sûr, baisser de 89 à $29, ça va faire un manque à gagner, mais c'est pas celui-là du tout qui inquiète le cabinet Barclays, puisque c'est eux qui ont chiffré que si vous changez votre batterie, c'est que tu vas pas changer de téléphone. Et en 2018, pour eux, ça représenterait 16 millions d'iPhones vendus en moins. C'est quand même 10,29 milliards de dollars. Donc, que l'obsolescence soit programmée ou non, c'est quand même une obsolescence qui est très très sympa et très très appréciée par les comptables. Et bon, ben oui, parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence, hein, le développement durable, c'est pas bon pour les affaires.
Ça, c'est forcément, ça génère moins de cash. Dommage. Un petit mot sur, on pouvait pas quand même, hein, on t'avait sous la main, on pouvait pas, même si c'était tout frais, là, l'annonce de la part de Samsung de l'Exynos 9810 avec, là aussi, encore un peu d'intelligence artificielle dedans. Mais c'est une révolution encore.
Oui, ou pas du tout. Non, en fait, le nouvel, alors ce nouveau machin, bon, on ne sait pas s'il est sensible à Spectre ou à Meltdown, mais parce qu'il utilise des puces maison. Mais bon, probablement que oui. Mais là n'est pas la question. C'est une puce en 10 nanomètres super puissante, avec 4 cœurs à 2,9 GHz, hein, c'est 40% plus rapide que sa grande sœur, comme d'hab. Alors, ce qui est marrant, c'est, ça confirme la tendance attendue, hein, c'est qu'il y aura un coprocesseur pour booster les calculs d'intelligence artificielle dedans, comme dans les puces d'Apple, mais aussi comme dans celles de Huawei. Et probablement comme dans toutes les puces à venir, petites ou grandes d'ailleurs. Donc bientôt un Face ID sur S9, ben, c'est ça que tu demandais, probablement. Mais surtout, je pense, bientôt des cacas qui parlent sous Android. Heureusement, on a failli attendre.
Oui, c'est heureusement que ça va vite arriver parce que ça nous manquait. Ça m'arrive en plus. Hein. J'ai honte à chaque fois que je le fais, mais ça me fait rire d'envoyer des cacas ou des licornes.
Mais j'en suis sûr que tu utilises.
Tu t'en es pas envoyé, toi, d'ailleurs ?
Ben non, mais moi, est-ce que je les recevrai seulement ?
Bien sûr. On échange sur WhatsApp. Je vais te préparer ça tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu utilises pour le deep learning comme matériel? C'est quoi le matériel phare, Guillaume, pour le deep learning? Qu'est-ce qu'il faut installer?
Ben, le truc, c'est qu'il y en a plein, les constructeurs en font, mais c'est vrai que Nvidia est quand même très à la pointe, on va dire, puisqu'ils vendent des Tesla. C'est pas des voitures, hein, c'est des cartes de calcul intensif et, les toutes dernières sont très très douées pour accélérer le calcul de deep learning. Mais les Tesla sont chères et elles sont destinées aux pros. Alors originellement, Nvidia évidemment fait des cartes graphiques GeForce. Donc tu prends une carte haut de gamme, tu enlèves la sortie graphique, tu rajoutes un peu de RAM et t'as une Tesla quoi globalement. Alors les dernières GeForce, donc du coup, elles aussi sont très efficaces pour faire des calculs et souvent elles sont beaucoup moins chères. Du coup, dans la série des conditions d'utilisation débiles, Nvidia fait très très fort hein, puisqu'il interdit l'utilisation de ces GeForce dans les data centers. Parce que c'est pas assez cher, hein. Faut pas se voiler la face. Sauf pour faire des calculs de crypto-monnaie, parce que là c'est bon, me demandez surtout pas pourquoi. Donc c'est nouveau, voilà. Les constructeurs, maintenant, ils veulent décider de quel type de calcul t'as le droit de faire sur leur hardware. Tu vois. Donc là, moi, tout ce que je dis, c'est AMD, je vous appelle, c'est le moment de remuer les monopoles, de donner un bon coup de pied au gros cul vert de Nvidia, exactement comme il a fait au gros cul bleu d'Intel l'an dernier, parce que là, ça commence à bien faire.
Eh ben on verra comment ça va évoluer et puis évidemment on sera là pour le commenter, mais d'ici là on aura eu l'occasion d'écouter de nouveaux bonus. C'est la rubrique bonus de cet épisode 69. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Guillaume? Est-ce que tu vas nous expliquer pourquoi est-ce que tu as des acouphènes, tout simplement?
Ouais, alors c'est vrai que je les avais d'avant, mais si je n'avais pas, je crois que parce que bon voilà, je pensais qu'en vieillissant on perdait l'audition naturellement, tu vois. En fait non, je viens de découvrir qu'en fait c'est un allant au cinéma. Parce que je suis allé voir Star Wars 8 et puis le son, il était genre mais super ultra turbo trop fort quoi. Tu vois la grosse flèche sur la page Wikipédia de décibels, je peux dire que j'étais au-dessus de 80 décibels dans le gros orange. Parce que tu vois, j'ai eu un réflexe stapédien. Oui, j'ai un réflexe stapédien, c'est quand le son est si fort que les muscles de l'oreille moyenne se tendent automatiquement pour rendre plus rigide la chaîne des osselets et pour atténuer le son. Eh ben, il se déclenche au-dessus de 80 décibels, donc j'étais en réflexe stapédien, je peux te dire que c'était au-dessus. Donc, pendant tout le film, j'étais en réflexe stapédien, et comme c'est pas du tout agréable, j'ai fait passer la moitié du film à me boucher les oreilles pendant les scènes d'action. Ma femme a eu mal aux oreilles pendant toute la soirée. Alors, je sais pas ce qui me chipote le plus dans cette histoire, tu vois, c'est qu'on ait payé 17 euros par personne pour se faire agresser la tronche,
c'est vrai,
ou que des professionnels de l'image aient pas su régler un simple potard de master volume, tu vois, ou que personne n'ait eu l'air de s'émouvoir du niveau sonore, quand même pas des gens bien plus jeunes que moi. Pourtant, ils sont censés avoir une meilleure audition, non? C'est pas ça? En gros, si le but était de me faire investir dans un projecteur home cinéma, c'est vraiment très réussi.
Ouais, c'est terrible. Moi, j'en viens à avoir mal à la tête après chaque fois que je vais au ciné. Quoique là, sur Amiens, le Gaumont, finalement, on n'a pas l'air de pousser trop sur le volume, donc ça va à peu près. Mais c'est vrai qu'on le sait en plus hein, dans une vidéo, la part de la composante de l'audio est très importante. Donc ouais, c'est assez déroutant quand on est dans un cinéma et qu'on est assourdi, quoi.
Moi, je dis pas que c'est tous les cinémas comme ça, d'ailleurs, mais c'est pas la première fois que
c'est pas tous les films.
Fort. Ouais. Et là, c'était le plus fort que j'ai jamais vu, en fait.
Ah, ça vaut peut-être le coup d'en parler à l'équipe du cinéma, hein, cela dit.
Ah ben non, mais carrément, c'est vrai, carrément. Mais enfin, je pense que j'y retournerai plus jamais, mais effectivement, ça aurait fait le coup. Donc je sais pas, est-ce que ça vous arrive aussi, vous, d'être agressé par le volume sonore du cinéma? Enfin, c'est inadmissible, quoi.
Dites-nous si ça vous arrive aussi en commentaire. Moi, en tout cas, c'est clair que ça m'arrive aussi. En bonus, j'avais prévu au départ de vous parler de Bright, ce film qui est proposé par Netflix avec Will Smith, mais en fait j'en ai fait un article sur mon site où vous comprendrez vite ce que j'en ai pensé, et à la place il s'avère que tout à l'heure il y a Nabila qui est passé chez moi, qui a frappé à la porte et qui est venue et qui avait un avis à donner, et du coup je me suis permis de l'enregistrer. Je vous la diffuse tout de suite. Elle avait un bonus à donner pour Tech Café. Je vous laisse écouter.
Les chéris, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, genre cette sorte de nouvelle monnaie virtuelle. Et en fait, je connais l'une des filles qui travaille avec un trader qui sont à fond dans le Bitcoin. C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur. Et donc, en fait, je trouve que c'est assez bien. Et comme en ce moment, genre, c'est grave en train de se développer, ils ont créé un site, je vais vous mettre juste en dessous, vous faites glisser comme d'habitude. En fait, ça vous permet de, bah, d'apprendre, en fait, à utiliser le Bitcoin. Voilà. Enfin, je pense que c'est le moment, ça commence à peine à se développer et je pense que c'est le moment de s'y intéresser un petit peu. Et en fait, même si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Genre, vous investissez des petites sommes. Genre, moi, j'ai dû mettre à peu près 1000 euros. J'ai déjà gagné 800 euros. Mais vous pouvez faire beaucoup moins. Et en plus, c'est un site qui est sûr. Ils ont aussi une page Facebook. Je vais vous la mettre. Je vais pas souvent sur Facebook, mais j'ai un compte parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas mal intéressants. Puis aussi pour parce que je surveille aussi ma mère sur Facebook. Mais ils ont une page Facebook, je vais vous la mettre. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que je vais vous mettre la page Facebook. Donc, vous faites glisser. Et de là, enfin, je sais pas si vous avez un compte ou pas, mais sinon, vous en créez un. Sinon, je crois que la page, on peut l'avoir sans créer de compte. Et de là, vous leur envoyez Nabila en message privé. Et après, ils vont tout vous expliquer, genre comment faire, vous donner des conseils. Tout. Et rien que sur le mur en fait de la page, vous allez vous rendre compte que ben il y a plein de personnes qui ont déjà essayé, qui ont déjà acheté du Bitcoin, qui donnent des conseils comment faire, etc.
Bon voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment insupportable à écouter. Juste un mot quand même pour dire, hein, c'est Julien Cadeau qui a partagé ça, le rédacteur en chef de Numérama là sur Twitter. Je reprends tout simplement son tweet que je m'approprie honteusement pour ce bonus. Il dit quand même hâte que les crypto-monnaies soient régulées. Comment voulez-vous que ça ait un semblant de sérieux quand une influenceuse peut sans risque lancer une spéculation aveugle sur de l'argent, être rémunérée par de l'affiliation, dire qu'il n'y a pas de risque. Et effectivement, ça laisse rêveur. Merci Nabila. Merci aussi à toi, Guillaume, qui a su aussi habilement nous apporter une compréhension totale du fonctionnement des microprocesseurs avec leurs calculs spéculatifs et surtout les implications pour ces failles Meltdown et Spectre qui ne sont donc pas 2 mais 3, on l'aura retenu ce soir. Si vous appréciez Tech Café, surtout, on vous l'a dit en intro, mais je tiens à vous le répéter, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux financements participatifs qui sont sur techcafé.fr. Si vous n'avez pas du tout envie de participer, c'est pas grave du tout, votre écoute est a priori le soutien le plus important que vous pouvez nous faire. Plus particulièrement si vous avez l'opportunité de déposer un commentaire sur le site techcafé.fr pour réagir ou compléter les choses qu'on aurait pu dire, c'est parfait. Vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux ou à vos proches les émissions. C'est évidemment très important pour nous quand il y a cet aspect viral sur les émissions. Il y a toujours la plateforme iTunes pour ceux qui y ont accès, qui permet de déposer des commentaires, des avis, des étoiles, des notes. Ce qu'on a un petit peu moins, j'ai rien vu remonter ces derniers jours, n'hésitez surtout pas à déposer des commentaires pour faire remonter Tech Café dans le classement des podcasts. Merci beaucoup de votre fidélité. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Internet?
Et moi, on me retrouve au mètre près grâce à Google Maps. Pour le chèque, c'est où en fait?
Pour le chèque, c'est en crypto-monnaie. Il faudra revoir ça un petit peu plus tard si tant est qu'on ne se sera pas fait hacker.
Faut que j'envoie Nabil à où, bah, tu me diras. Hein.
Attends, je te donne son numéro et puis on va pouvoir échanger avec elle. Merci beaucoup Guillaume. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur mon site perso, tout ça en me googlisant. Après tout, pourquoi pas. On vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Ciao, ciao.
Les chéris, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, genre cette sorte de nouvelle monnaie virtuelle. Et en fait, je connais l'une des filles qui travaille avec un trader qui sont à fond dans le Bitcoin. C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur. Et donc, en fait, je trouve que c'est assez bien. Et comme en ce moment, genre, c'est grave en train de se développer, ils ont créé un site, je vais vous mettre juste en dessous, vous faites glisser comme d'habitude. En fait, ça vous permet de... Bah, en fait à utiliser le Bitcoin, voilà. Enfin, je pense que c'est le moment, ça commence à peine à se développer et je pense que c'est le moment de s'y intéresser un petit peu. Et en fait, même si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Genre, vous investissez des petites sommes. Genre, moi, j'ai dû mettre à peu près 1000 euros. J'ai déjà gagné 800 euros. mais vous pouvez faire beaucoup moins. Et en plus, c'est un site qui est sûr. Ils ont aussi une page Facebook, je vais vous la mettre. Je vais pas souvent sur Facebook, mais j'ai un compte parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas mal intéressants. Puis aussi pour parce que je surveille aussi ma mère sur Facebook. Mais ils ont une page Facebook, je vais vous la mettre. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que je vais vous mettre la page Facebook. Donc, vous faites glisser. Et de là, je sais pas si vous avez un compte ou pas, mais sinon, vous en créez un. Sinon, je crois que la page, on peut l'avoir sans créer de compte. Et de là, vous leur envoyez Nabila en message privé. Et après, ils vont tout vous expliquer, genre comment faire, vous donner des conseils et tout. Et rien que sur le mur, en fait, de la page, vous allez vous rendre compte que y a plein de personnes qui ont déjà essayé, qui ont déjà acheté du Bitcoin, qui donnent des conseils, comment faire, etc. Parce qu'après, ils ont vraiment l'habitude. Enfin, ils font ça depuis des années. Et en fait, ils font ça depuis avant qu'il y ait toute cette que tout le monde commence à parler du Bitcoin. Quoi, ils étaient déjà dessus il y a un moment. Donc du coup, ils ont vraiment cette faculté à savoir gérer ça. Il y a aussi il y a un des deux traders qui s'appelle Romain, il a un Snapchat, donc vous pouvez l'ajouter aussi. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez sur la page Facebook parce que je trouve qu'elle est vachement complète. Si ça vous intéresse de débuter là-dedans, je trouve que c'est plutôt cool. Et honnêtement, ils sont à plus de 85% de taux de réussite, donc en gros qui se trompent pas, quoi. Donc c'est vraiment sûr, c'est vraiment cool, et si ça vous intéresse, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, le Bitcoin, en fait, c'est comme un investissement, parce que c'est de l'argent qu'on peut toujours récupérer, c'est de l'argent virtuel. Mais honnêtement, si vous voulez essayer, faites-le avec eux, parce que tout seul c'est pas pareil, on sait pas trop où on va, etc. Moi je connais vraiment l'une des deux personnes, et c'est des personnes qui sont hyper cool, qui sont hyper réglo, c'est des professionnels, et il y a rien à perdre, c'est gratuit, c'est juste que c'est un bon encadrement. Et bonjour, j'ai perdu ma chambre. C'est un bon encadrement, et franchement c'est un bon investissement à faire. Ça y est, j'ai retrouvé ma chambre. Donc du coup voilà, vous les ajoutez sur Facebook, ou alors vous les ajoutez pas, mais vous leur envoyez un message, vous écrivez Nabila. Et donc de là, si ça vous intéresse, ils vont vous expliquer comment faire. Et tenez-moi au courant.